Bonjour mes amis, comment allez-vous ce matin en ce... Nous sommes quoi donc? Le jeudi 15 octobre 2015. Oh, le 15 du, du 10 du 15. Je sais pas si ça porte chance, c'est marrant. Je trouve juste, si j'avais un chèque à faire, d'écrire 10... Enfin bon, non, remarque, c'est une nouvelle fois un des délires matinaux de votre animatrice Clotilde Say qui vous accompagne jusqu'à 11h45 en compagnie d'autres voix de service, à commencer par Rémi Remonzeau, comment elle s'appelle, Christiane Campagna également, Marie Lalande sera là, Yvan Deslauriers, Thibaut Temmerman, Kevin Breton. Alors voyez-vous, on s'est démultiplié pour vous rendre service ce matin. Dans la première demi-heure, on y à voir ce qui s'écrit dans les journaux, la presse et le journal de Montréal, et Christiane Campagna viendra nous rapporter la nouvelle virale du jour. Alors je me tourne tout de suite du côté de Rémi Hermoso. Rémi, quand on dit le jeudi, quand on parle de cette date du 15 octobre, à part les élucubrations d'une animatrice un peu perdue, ça nous évoque quoi?
Ça nous évoque la Sainte Eugénie dans les prénoms anciens et la Sainte Thérèse.
Ah, Eugénie.
Pour commencer.
D'accord.
C'est également la Journée internationale pour la résolution des conflits.
Ok.
La Journée internationale de la femme rurale.
Mmh.
La journée mondiale de la sensibilisation au deuil périnatal,
okay.
C'est précis. Et la journée internationale des toxicomanes, donc plein de journées internationales.
Oh, alors qu'on entend reparler de marijuana au sein de la campagne électorale, c'est la journée internationale.
Ah oui, c'est chez les libéraux, ça.
Oui, en ce moment, oui, on reparle de cela. Et puis sinon, est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui?
Il y a beaucoup de choses qui se fêtent aujourd'hui. En 2012, le premier ministre ontarien Dalton McGuinty annonçait qu'il démissionnait en tant que chef du Parti libéral et qu'il prorogeait le Parlement.
Ouais.
Le prix Nobel de la paix en 1999 était attribué à l'organisme d'entraide Médecins Sans Frontières.
Oui.
Une collision entre deux pétroliers provoquait la pire marée noire de l'histoire.
Oh.
Dans le détroit du Singapour.
Ouais.
En 83, Robert Bourassa redevient le chef du Parti libéral. Puis là, je saute beaucoup d'événements, parce qu'il y en a vraiment beaucoup aujourd'hui.
Beaucoup aujourd'hui, hein. Le 15 octobre a été favorable
à des événements
de toutes sortes, oui.
En 1914, à Washington, le Congrès adopte la loi antitrust de Clayton.
Ok.
Puis, sinon, anniversaire...
Ouais.
On a Honoré Mercier, le premier ministre du Québec,
qui
était né en 1840.
Oui, et qui n'est pas seulement une station de métro, parce que la plupart...
C'est Honoré Beaugrand, les stations de métro.
Oui, mais on a aussi un Mercier, non? On n'a pas un Honoré Mercier aussi qui est dans... Ah non, je confonds avec un autre. En tout cas, peu importe, c'est pas grave. C'est une autre élucubration du jeudi matin.
Sinon, le philosophe Friedrich Nietzsche,
qui
était né un 15 octobre. L'acteur français Michel Aumont.
Ok. Ok. Essayez, les garçons, quand vous me parlez d'une date, moi, ce qui m'intéresse aussi souvent, c'est que c'est leur année, quoi. Nietzsche, il était né en quelle année, par exemple?
Nietzsche était né en 1844.
En 1844, ça m'intéresse parce que tu dis... Hein,
Michel Aumont en 1936, du coup.
Oui.
Et Honoré Mercier en 1840.
D'accord. Bah, merci beaucoup, Rémi. On y va tout de suite avec la presse.
Merci à toi.
Alors à la une ce matin de la presse, une photo en quatre parties des quatre principaux chefs qui briguent la place de Premier ministre. Et la presse a demandé à ces chefs des renseignements financiers personnels, dont leur plus récente déclaration de revenus. Également à la une de la presse ce matin, négociations avec les enseignants. Québec jette du lest. Le gouvernement renonce notamment à faire passer la semaine de travail de 32 à 35 heures. Et puis Subban Inc., toujours l'impeccable Subban, dans un magnifique costume blanc et cravate rouge sur la photo. À la une, sur la glace comme à l'extérieur, le défenseur vedette du CH qui soigne son image de marque. Je suis plus qu'un joueur de hockey, a dit celui qui a lancé hier son site internet en grande pompe. Et puis chute dans un vestiaire. Figurez-vous que Eugénie Bouchard poursuit l'association de tennis des États-Unis. On en parle évidemment dans le cahier des sports, tout comme on parle de ce match fou qui permet aux Blue Jays d'accéder à la finale de l'association américaine. Vous pouvez compter sur l'ami Kevin Breton pour vous en parler un petit peu plus tard à l'émission. Alors ça, j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit, est-ce que j'en parle ou pas? On parle de ce que les chefs gagnent et paient comme impôts et tout ça. Honnêtement, je n'étais pas sûre. J'ai finalement décidé de vous résumer ça, d'ailleurs, comme l'a fait la presse en une seule phrase. Monsieur Harper n'a pas voulu ouvrir ses livres. Monsieur Mulcair a gagné 307 219 dollars en 2014. Monsieur Trudeau, on ne sait pas exactement le prix, je veux dire le montant de ce qu'il a gagné, mais on sait qu'il paie ses impôts provinciaux en Ontario. Et puis, quant à Monsieur Duceppe, eh bien, il donne 1% de ses revenus à des œuvres caritatives. Voilà pour résumer, là, parce que sinon, ça va être des chiffres pendant un quart d'heure. Puis, je me suis dit que peut-être ce n'était pas une bonne idée de commencer cette émission par des chiffres à ce point-là. Par contre, en revanche, aurais-je dû dire, Rima El Khoury dans la presse signe un papier fort intéressant qui s'appelle « La grammaire du monde ». Elle pose une question. Y a-t-il des enjeux qui vous ont interpellé durant cette campagne électorale ? Un long silence a suivi ma question. Elle dit « J'ai cru entendre une mouche voler, peut-être même deux. J'ai même craint pendant un instant que la soixantaine d'élèves du collège Vanier, muets devant moi, ne s'assoupissent en entendant les mots « campagne électorale ». Et j'ai pensé à toute l'admiration que j'ai pour les professeurs qui réussissent à capter l'attention d'une génération dopée à la stimulation éternelle du téléphone intelligent. C'est comme un prolongement de leurs mains. Ils se sentent nus sans leur téléphone, me disait leur professeur qui doit fréquemment exclure du cours des élèves incapables de s'en passer. Alors, comment les amener à se concentrer sur une seule chose? Comment les tenir éveillés devant des sujets qui les endorment? Comment surtout les tenir éveillés? Point. Ils ont l'âge du premier vote pour la plupart, mais la majorité d'entre eux n'iront pas voter. Pourquoi donc? Parce qu'ils ne se sentent pas assez bien informés pour le faire. Parce qu'ils ne se sentent pas assez interpellés. Parce qu'ils ne sont pas convaincus que ça ferait une différence. Parce qu'ils ont l'impression que c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Parce qu'ils ne font pas confiance aux politiciens. Ils sont à l'image des jeunes de leur âge, peu enclins à aller voter. Pour la majorité d'entre eux, ce ne sera pas l'âge du premier vote, mais bien l'âge de la première abstention. Le long silence de ces élèves et les quelques réponses désillusionnées qui suivent illustrent une certaine forme de décrochage civique. Et pourtant, ce serait cliché que d'en déduire que les jeunes ne s'intéressent à rien hormis l'écran de leur téléphone. Ils sont un peu plus instruits que la moyenne et un peu moins croyants, un peu moins riches aussi. Ils n'ont pas encore les préoccupations des familles tant courtisées par les politiques. Le taux électoral des jeunes finlandais, même s'il a diminué, demeure beaucoup plus élevé que celui des jeunes Québécois, plus de 60%. Les jeunes de Finlande considèrent peut-être davantage le vote comme un devoir social. En revanche, on n'y sent pas la même volonté de changer les choses. Alors sont-ils dépolitisés, les jeunes? Si on ne se fie qu'au taux de participation électorale pour répondre à cette question, oui, sans doute. Mais il y a d'autres moyens de s'intéresser à la politique. Ma question somnifère sur les enjeux électoraux a été suivie d'une discussion très animée sur les inégalités hommes-femmes qui persistent à ce jour. Et puis, je m'en vais à la toute fin de ce papier qu'elle signe ce matin, Rima El Khoury, et qui dit qu'à la fin de la discussion, celui qui avait essuyé de vives critiques après avoir dit que les femmes aimaient être dominées a dû se rendre à l'évidence. Non, elles n'aiment peut-être pas ça. Vous avez raison, pardon, a-t-il dit en souriant, dans la vie comme sur papier, le masculin l'emporte sur le féminin, mais il peut en être autrement. Il venait de saisir une règle élémentaire de la grammaire du monde. Lagacé, lui, signe un papier qui s'appelle « L'homme peureux ». Ça s'appelle « Le visage de la peur », un montage qui fait par voir.ca, un montage fait par voir.ca mettant en vedette des Québécois qui disent à visage découvert tout le mal qu'ils pensent des islams dans la foulée des controverses sur le niqab et sur l'accueil de réfugiés syriens. 15 minutes de délire paranoïaque anti-immigration et islamophobe où des Québécois mêlent tout. Et son contraire, ma situation préférée qui englobe tout l'esprit de cette vidéo et celle-ci, nous dit Lagacé. En tant que Québécois, il serait temps qu'on sorte dehors, qu'on mette des croix, si vous êtes chrétien, en avant de votre maison. Plantez-en des croix, mettez votre drapeau québécois, mettez-en des pancartes, on n'en veut pas de musulmans. Moi, s'il faut que j'envoie un musulman scolissé à genoux dans une rue à Joliette, Québec, pour prier, là, ben oui, je vais en faire de la prison parce que je vais aller lui foutre une taloche. Voilà en gros ce que M. Lagacé a retenu. Il dit « Oh, rien de neuf au fond, en 1936, ces cons-là se seraient fédérés autour de la haine socialement acceptée et acceptable du juif. Américains de l'Alabama en 65, ils auraient demandé à la garde nationale de fesser encore plus fort sur les Noirs, réclamant un statut légal devant la loi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonne raison à s'opposer à ce qu'une femme puisse voter avec son niqab, prêter serment comme citoyenne avec son niqab, il y en a, et il y a des gens qui ont de très, très bons arguments. » Mais il y a des choses qui se disent sur les musulmans ces jours-ci, qui sont débiles et délétères, des choses qui feraient scandale si elles étaient dites sur les Noirs, les Juifs ou les Québécois de souche. La vidéo dont je vous parle est un condensé désespéré de cette ère du temps. Qu'on se comprenne bien, dit Lagacé, l'islam radical fait des ravages, et en certains coins du globe, cet islam radical et violent est une machine à broyer des vies. Mais l'islam radical tue d'abord et avant tout des musulmans sur les fronts mouvants d'une guerre larvée entre chiites et sunnites. Et puis, quelques nouvelles d'actualité aujourd'hui, telles qu'on peut les lire dans la presse ce matin. Blais appuyé par un ancien ministre critiqué par le syndicat de la fonction publique. Un ancien ministre de l'Éducation donne raison à François Blais au sujet de la résistance au changement et du manque de données fiables au ministère. Mais pour le syndicat de la fonction publique du Québec, le ministre actuel alimente les préjugés contre les fonctionnaires et... Je les cite, ces syndicats ne méritent pas d'être à la tête de l'éducation. Il faut rappeler qu'hier, la presse a révélé le compte-rendu d'une rencontre que le ministre Blais a eue le 18 septembre avec des doyens de faculté d'éducation, où on peut y lire, selon M. Blais, que le ministère de l'Éducation est vieillot, lent et s'appuie sur peu de données fiables. Également, aujourd'hui dans les actualités, les Premières Nations du Québec et du Labrador réclament une enquête publique. Sur quoi ? L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador réclame une enquête publique sur les morts violentes et obscures des jeunes autochtones survenues depuis l'an 2000 dans la province, un drame mis en lumière par la presse dans une grande enquête publiée le week-end dernier. Uber baisse à nouveau ses prix. À partir d'aujourd'hui, les Montréalais pourront payer leurs courses de taxi avec leur carte de crédit ou de débit. De son côté, Uber vient d'annoncer de nouvelles baisses de prix, une stratégie qui reflète probablement un simple ralentissement de la demande, croit Jacques Nantel, professeur titulaire au département de marketing de HEC Montréal. En ce qui concerne le procès de Guy Turcotte, dont je parle rarement, parce que c'est un peu difficile, je dois dire que les témoignages qui affluent, je les lis tous les matins, mais ça nous raconte des choses qui sont, je trouve, qui peuvent rester un peu dans l'ombre, parce qu'on peut imaginer ce qu'on peut entendre à ce procès, alors qu'on sait dans quelles circonstances M. Turcotte a tué ses enfants. Aujourd'hui, c'était la mère de Guy Turcotte, Marguerite Fournier, qui s'exprimait et qui a dit il continuait de répéter les mêmes choses, il revenait sur son malheur, sur sa souffrance. Il a dit aussi, j'ai dit à une ambulancière qui est passée avec une sacoche, vous n'avez pas besoin de sacoche, ils sont tous morts. Elle évoque la violence de son fils et le fait qu'elle était convaincue qu'un jour il passerait aux actes et que même il tuerait sa femme et pas seulement les enfants. Donc voilà pour les actualités, ou du moins ce qu'on retrouve non seulement dans la presse ce matin, mais aussi dans la plupart des journaux du Québec. Salut Christiane.
Bonjour Clotilde.
Comment ça va ce matin?
Ça va très bien. Je suis arrivée parce qu'il y a eu une panne de la ligne orange.
Je ne l'ai pas su, comme ça j'ai pas eu le temps de m'inquiéter. On a ressorti les gros foulards.
Oui,
ça y est.
Ça y est.
Changement de température. Et premier éventuel flocon attendu pour la fin de semaine. Bon, ça va fondre. Ça va fondre, Rémi, pas de panique, ça va fondre. Mais bon, alors ce matin, quelle est la nouvelle virale? Qu'est-ce que vous avez trouvé?
En fait, c'est des nouvelles virales qui circulent depuis le début de la semaine.
Ouais.
Une concerne une publicité française de la compagnie Orange qui a concocté une pub mettant en scène un Québécois qui aligne les expressions de chez lui avec un bel accent. C'est drôle parce que ça, c'est tiré d'un journal suisse, je pense. Il peine donc à se faire comprendre. Petit hic, les Québécois ne comprennent rien non plus, affirmait hier le Huffington Post français, appuyé par des confrères de la belle province. Verdict, l'accent est douteux, les anglicismes utilisés ne le sont pas au Québec et les expressions datent méchamment, un peu comme quand les Anglais imitent les Français en disant « sacre bleu ».
Ah bah oui, d'accord. Mais est-ce
tu
qu'on a...
Tu mis « sacre bleu »
Sacre bleu, non.
De manière très sarcastique éventuellement, mais sinon...
Ouais. Mais là, la suite, je sais pas si elle est sarcastique ou pas, c'est heureusement l'acteur qui joue le Québécois a un look de bûcheron, enfin une réalité respectée, ils abattent tous les arbres là-bas.
Mais est-ce qu'on sait quels étaient les propos qui étaient tenus, non? Vous les avez pas trouvés?
J'ai pas regardé la vidéo encore.
Si vous voulez, je peux vous éclairer, je l'ai vu, puis c'est vraiment pas bon. Mais c'est en gros, c'est un client qui débarque dans un magasin Orange, puis qui demande de l'aide aux vendeurs français.
Il faut savoir qu'un magasin Orange, pardon...
Ah oui, excusez, oui. Un coudou, on va dire.
C'est ça. Oui, c'est,
genre, ouais. Dans un opérateur de
téléphone, de cellulaire, tout ça.
Puis du coup, il se met à parler avec son accent, puis là, ils affichent des sous-titres, et la mentalité de l'histoire, c'est de la pub, c'est que Orange comprend ses clients, d'où qu'ils soient, etc., etc.
Oh.
Mais c'est vrai que c'est mal joué, que les expressions sont mauvaises, etc. Ouais. Mais à notre défense, parce qu'il y a beaucoup de... J'ai vu beaucoup de réactions sur Internet, tous les anglicismes utilisés le sont pas du tout en France non plus. Enfin, c'est ridicule
Les
deux sens.
Oui, d'accord. Mais c'est sûr qu'on voit toujours ça. Je me souviens, la première fois que je suis arrivée au Québec, je m'étais acheté un petit livre sur les expressions. Bah oui, comme le font quasiment tous les Français, parce qu'on a peur de pas comprendre. Et c'est vrai qu'au début, on est un petit peu perdu quand même, il faut bien le dire, à cause des expressions. Et à un moment donné, j'avais lu un truc que je n'ai jamais entendu ici. J'ai jamais entendu un Québécois. C'est comment dit-on un diabolo au menthe au Québec? Vous savez, c'est une boisson qui est composée de limonade et de sirop de menthe.
En boitant.
Alors déjà ici, on n'en boit pas. Et ils avaient trouvé, comme qu'on disait au Québec, que c'était du jus de gazon à l'eau furieuse. Évidemment. Voilà. Alors revenons-en à nos moutons et à notre nouvelle virale.
L'autre nouvelle qui fait beaucoup jaser depuis le début de la semaine, c'est qu'il y a eu beaucoup de souverainistes convaincus, de bloquistes convaincus, surtout qui ont été très offusqués par la carte de Danny Turcotte dimanche soir qu'il a donnée à Gilles Duceppe, qui disait. Si la tendance se maintient le 19 octobre prochain, vous retrouverez votre siège bien tranquille chez vous, les deux pieds sur le pouf dans votre salon.
Mais il y a
vraiment une fange de souverainistes convaincus qui n'ont plus aucun sens de l'humour. C'était la même chose pendant la course à la chefferie, ce qui a fait écrire à Marc Cassivi des souverainistes aigris sur les médias sociaux. Un pléonasme vicieux. Et j'ai vu passer dans la presse plus tout à l'heure quelque chose qui était à l'opposé de ça. Ce matin, ils ont rencontré les frères Boulris.
Je l'ai vu. Nicolas,
qui est musicien dans le vent du Nord, qui est un bloquiste convaincu, et son frère qui est
Alexandre.
Mon député sortant et candidat du NPD, Alexandre Boulris. Et c'est la preuve qu'on peut avoir des idées politiques différentes dans le respect et l'amour fraternel. Procurez-vous un sens de l'humour.
Ben oui. Et les sœurs David, hein?
Voilà.
Les sœurs David aussi, qui sont pas dans le même camp et qui mangent à la même table, qui partagent, j'allais dire, le gigot, la dinde à Halloween.
Et des amis, les Avrula et Louise Baudouin, qui ont toujours maintenu leur amitié malgré des positions diamétralement opposées sur le plan constitutionnel. C'est possible, il faut en revenir à un moment donné.
C'est tout?
Oui.
On se revoit plus tard?
Oui.
Alors à plus tard. À la une du journal de Montréal ce matin, 100 millions de dollars pour rafraîchir le centre Bell. Je sens que Kevin va vous en parler. Explosion des vols à la SAQ, presque 10 millions de dollars volatilisés. Je ne sais pas si c'est dans la dernière année ou dans plusieurs années. Également, une curieuse propagande dans nos bibliothèques. C'est exclusif au journal de Montréal. Il y aurait des livres islamiques venus d'Arabie Saoudite. Bon. Et puis, il y a une photo de ce garçon. C'est d'une tristesse terrible qui a été, vous en avez peut-être entendu parler, abattu à coups de marteau par un suspect au lourd passé criminel et psychiatrique. Il a été tué absolument sans raison. Évidemment, ça fait la une. ainsi que la page 2 et 3 du journal de Montréal, avec même une photo de ce suspect, de cet homme qui a été arrêté pour attaque mortelle au marteau. Il était connu comme le coucou du voisinage, ce suspect arrêté concernant le meurtre à coups de marteau et sans raison apparente d'un jeune homme de 19 ans à Laval. Il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas fait son travail pour encadrer le suspect, s'insurge l'avocat criminaliste Patrick Davis à propos de cette macabre affaire. Je vous rappelle que au total, 3 personnes sans lien apparent avec le suspect ont été attaquées au marteau mardi soir, dont François-Xavier Théberge, 19 ans, retrouvé mort à deux rues de chez lui. Les premiers éléments d'enquête n'ont pas permis de connaître le motif de ces attaques. Un suspect qui vivait non loin de la scène du meurtre a été arrêté. Selon nos sources, il s'agit de Francine Jutras, 34 ans, ce que la police n'a pas confirmé hier. Or, Francine Jutras n'avait pas été reconnue coupable de voies de fait à deux reprises au cours des dernières années, dont une... Il avait été reconnu coupable, pardon, à deux reprises de voies de fait, à deux reprises au cours des dernières années. Je vais finir par arriver à faire une phrase correcte, dont une fois sur sa propre mère. Ironie du sort, il devait revenir en cour hier pour recevoir un retour d'évaluation psychologique dans la foulée d'accusations d'agression armée en mai dernier sur son colocataire, qui l'aurait accusé de vol de nourriture selon nos informations. Alors donc voilà, il avait un problème psychiatrique. Le mot, je ne l'ai jamais trouvé dans cet article-là, mais on parle d'autisme. Et ce matin, j'ai écouté à la radio qu'on avait interrogé, entre autres, Sophie Préjean, qui, vous le savez, est la maman d'un garçon autiste. D'ailleurs, qui nous a précisé qu'à 13 ans, son fils mesure plus de 6 pieds, il chausse du 15 et il pèse 220 livres. Ça vous donne une idée en plus. Alors ce type-là, là, quand il devient violent, généralement contre lui-même, Sophie Préjean, la comédienne, disait que c'était extrêmement grave et que donc il avait toujours besoin d'avoir quelqu'un à côté de lui pour se protéger de lui-même, pour qu'il se protège de lui-même. Et elle posait la question, qu'est-ce qu'on fait après 18 ans quand on n'a plus aucune aide possible? Elle dit, nous, on ne peut pas, les parents, être constamment avec lui. Alors bon, est-ce que c'est ce qui est arrivé à ce jeune de 30 ans, 30 et quelques années, qui se baladait avec un marteau dans les rues de Laval et qui soudainement a eu une crise de violence comme ça? Écoutez, c'est pas, sûrement pas à moi de le dire, mais peut-être que ça sortira dans les journaux dans les jours qui viennent. Quand j'ai lu ça ce matin, je vous avouerai que mon cœur s'est un peu arrêté de battre. 3 sœurs enterrées vivantes dans du grain de canola. Nous sommes à Edmonton. 3 jeunes sœurs sont mortes d'horrible façon après avoir été enterrées vivantes et s'être étouffées dans du grain de canola mardi dans le centre de l'Alberta. Le drame s'est produit en fin de journée à la ferme familiale située à 15 km à l'est de Rocky Mountain House, entre Edmonton et Calgary. Cathy, âgée de 13 ans, et les jumelles Dara et Jana, 11 ans, jouaient sur un camion rempli de canola lorsqu'elles sont tombées dans le chargement d'une manière inexpliquée. Et ce sont les amis et les membres de la famille qui ont sorti les fillettes du chargement de grains. 2 d'entre elles, âgées de 13 et 11 ans, ont été déclarées mortes sur place et la 3e a été transportée par avion. Mais malheureusement, elle est décédée hier. Et ce qui me glace le sang, c'est la réaction des parents, qui d'ailleurs peut-être n'ont pas encore réalisé, je ne sais pas, hein, mais qui ont déclaré « Nos enfants sont morts en vivant une vie à la ferme. Nous ne regrettons pas d'avoir élevé et impliqué nos enfants sur notre ferme. C'était notre vie. » Chère promesse, écrit ce matin monsieur Mario Dumont, blogueur au journal de Montréal et vous savez, ex-homme politique lui-même, qui l'a quitté pour prendre la plume, entre autres, et pour s'exprimer dans les médias de façon générale. Il écrit ce matin qu'officiellement, tous les citoyens sont prêts à se mettre la main sur le cœur et à affirmer « Je déteste les promesses électorales et je ne les crois pas ». En réalité, dit-il, je pense plutôt que les citoyens savent ce qu'il faut dire en public pour ne pas paraître nono, mais au fond du fond, les promesses, ça marche, dit M. Dumont. Depuis le début de cette campagne, le Parti libéral du Canada est celui qui a gagné le plus de points dans l'opinion publique. Bien sûr, Justin Trudeau a livré une performance au-dessus de ce que ses adversaires prévoyaient, mais nul ne peut faire abstraction d'une donnée frappante. Le Parti libéral est de très loin celui qui a promis le plus. Les promesses électorales, dit M. Dumont, c'est comme une vieille chanson quétaine d'été. En public, on s'en moque, mais seul en auto, lorsqu'elle joue à la radio, on fredonne et on se sent bien. Caricature du Journal de Montréal ce matin de Baudet. 4 victoires de suite pour le début de saison du Canadien dans son fauteuil. Monsieur Coderre, déjà en train de soulever la coupe Stanley. Il est affublé d'un chandail du Canadien et bien sûr il secoue un drapeau du Canadien. À côté, il y a Monsieur Labeaume qui a l'air très 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 en colère avec un dossier sur le centre Vidéotron. Il porte un ancien chandail des Nordiques et Coderre, et vraiment il écume de rage, littéralement la fumée lui sort par les oreilles, et Coderre qui fait « Oups, j'avais oublié que t'avais un aréna mais pas d'équipe ». Et enfin, Madame Bombardier, les motivations du vote, pour finir avec le Journal de Montréal. Les citoyens, dit-elle, se font un devoir de voter. Ils savent que leur vote leur appartient. Ce n'est pas un cadeau qu'ils reçoivent, mais un droit qu'on leur confère. À bien y réfléchir, c'est un des seuls gestes qu'ils posent en ayant le sentiment qu'il signifie l'égalité de chacun devant l'État. C'est la raison pour laquelle le vote revêt un caractère sacré. C'est mon vote signifie je suis seul propriétaire du choix que j'exerce. Mais, dit-elle, pourquoi accorder son appui à un parti plutôt qu'un autre ? D'abord, une proportion d'électeurs se range dans le camp des irréductibles. Leur vote ne varie jamais. Ce sont des militants animés par la foi partisane qu'ils ont héritée de leurs parents. Cette catégorie qui constituait la majorité dans le passé s'est beaucoup réduite, cependant. L'éducation et le glissement de la conscience sociale vers la conscience individuelle ont transformé profondément nos choix politiques, si bien que le vote peut devenir une forme d'expression personnelle. De là l'influence déterminante des chefs de parti sur les électeurs. Voter par conviction, écoutez, il y en a encore des électeurs non politisés. Ils auront tendance à choisir en fonction de leur entourage immédiat, de leur histoire personnelle, de leur intuition et de l'image que dégagent les chefs. À cet égard, l'image de Justin Trudeau est de loin la plus forte, dit encore Madame Bombardier. Dans les jours qui viennent, de nombreux électeurs suivront leur intuition, réaffirmeront leur stratégie ou alors se prépareront de nouveau à perdre leur vote, sans considérer que cela est dramatique. Car en politique, les gagnants deviennent rapidement des perdants potentiels. Les sages, jeunes ou moins jeunes, le savent à coup sûr.
Sur le sujet, sont ben j'ose en direct. Le face allume, un meilleur monde les attend. Quelque part ailleurs, au firmament. Le sourire large de même galé qui gesticule. Avec leurs deux mains, des airs en majuscule. Ou ben tu bout des doigts pour t'expliquer ça. Ben non, crains pas, tu manqueras pas une virgule. Ils voient des lacs qui font des bombes dans l'eau. L'été, c'est bon pour les crampes au cerveau. Moi, Alpaga, ça me prend ta peau. L'automne arrive, faut que je me chauffe les os. Moi je pense à fille de Rouen. Mais comme dirait l'autre, d'où est-ce tu penses que je viens? Massimon Québec au large, là-bas, à Caracat, au festival du Beluga. Que ça se passe à pas, les gars, rien de moi, j'ai pris une shot sur ma gueule de bois. Pistache cerise ou même melon chocolat, à chacun son selon sa saveur du mois. Toutes les équipes s'entendent pour dire, pour rien au monde, on s'en passerait pas. À s'en ennuyer que ça va titiller, je colle d'un talon les jours d'été. Ou à l'ombre des cheveux, j'aurais été un animal du bout de mon nez. Thank you. sang de requin, moi je pense à fille de Rouen. Mais comme dire à l'autre, d'où est-ce tu penses que je viens? Et oh là là, lolo. 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 Chut, 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 ni tit, 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 tout le monde ensemble, we all of this. Tu tombes d'un arbre sur une peau d'ours, l'hiver est lent, slack la course. Au petit printemps, les quatre saisons, une gorgée de miel saveur maison. Le poids de ma noix quand le verre jauni dans le creux de tes mains, que le ciel est gris. À snooze du bain au petit matin, ma belle grande face en tes deux seins. Moi je pense à fille de Rouen. Mais comme dirait l'autre, d'où est-ce que tu penses que je viens? Et oh là là, lolo. 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 Et oh là là, lolo.
Monsieur Bernard Adamus sur les ondes de Canal M est toujours Clotilde Say qui accueille d'autres voix de service dès maintenant. Bonjour vous deux.
Bonjour Clotilde.
Vous deux étant, que je vous nomme, Yvan Deslauriers, Marie Lalande.
Bonjour.
Toujours fidèle au poste.
Toujours.
Malgré ce gros travail que vous avez à l'extérieur en ce moment sur les élections. Mais parce qu'il travaille, ces pauvres gens-là.
Mais qui s'achève bientôt.
Mais qui s'achève bientôt. Moi, je vais vous dire, moi, vous savez de quoi j'ai peur? Le vin.
Le
20 octobre.
Ah, le 20 octobre.
Moi, j'ai tellement hâte
non.
au vin.
Ben oui, mais moi, c'est un matin, ça, qui va m'effrayer.
Oui.
Parce que il va y avoir tellement d'informations dans les journaux que tu dis, OK, je dis quoi?
Je commence par où?
Personnellement, j'aurais envie de dire, voilà, il a gagné avec tant, il a perdu avec tant. Bon, parce que tu sais.
Mais malheureusement, il est possible que ça se passe pas comme ça parce que peut-être qu'on va se coucher très tard.
Ouais. Mais à quand un deuxième tour au Québec, mes amis? je veux dire au Canada, pardon.
Ça
non, mais vraiment.
Hein.
Mais oui, voyons donc. Oui. C'est pas normal de
c'est
faire
vrai.
Ça en un tour comme ça. Enfin bon, bref.
On pourrait jaser pas mal là-dessus,
mais en attendant, nous n'allons pas parler d'élections, mais de quoi ce matin? Alors, il y en a un qui est toujours passionné de sport.
J'ai deux topos de sport. J'ai élargi le vélo vers les activités physiques à l'extérieur.
OK.
Et puis, j'ai un topo sur la découverte d'une rondelle intelligente pour permettre à des aveugles de jouer au hockey.
Ah, wow!
Et l'autre, c'est un topo sur un projet de marche en montagne qui aiderait des personnes handicapées à pouvoir avoir accès ailleurs.
Alors, c'est
mes deux sujets un peu sportifs.
Okay.
J'ai un sujet météo qui touche aussi la conséquence des automnes un peu doux sur la faune. Puis j'en profite pour le dire aujourd'hui parce que la température se refroidit en fin de semaine.
Oui, mais oui, ils annoncent éventuellement des petits flocons.
Du gel au sol.
Oui, mais peut-être qu'il y a un été indien qui s'en viendrait.
Marie Lalande.
Moi, je vous parle d'abord des bienfaits de la sieste pour les petits la garderie.
Ah, oh, mais pas juste pour les petits.
Oui, moi, j'en rêve actuellement. Oui, je voudrais aller à la garderie.
Rêver d'une sieste, c'est une belle façon de présenter la chose.
Oui, c'est vrai. Ensuite, je vous parle de la naissance de deux bébés pandas au zoo de Toronto.
Oui.
Et je vous pose une question. Est-ce qu'on... Ah, c'est une question qui crée la controverse.
Mm-hmm.
Est-ce qu'on devrait texter en prenant soin d'un bébé. Alors,
est-ce que, ah oui, d'accord. Donc, on prend soin d'un bébé puis on texte en même temps.
Tout à fait. Alors, c'est une question qui est lancée et qui crée controverse aussi.
Ben oui, parce que de toute façon, c'est vrai qu'il y a plein de jeunes mamans qui ont constamment, malheureusement, un téléphone dans une main. Non, ça peut être. Alors, tenez-vous bien, Nassi, parce que nous avons plein de belles choses à vous lire. Là, par rapport à ça. Alors, avec qui on commence avec tout ça?
Oh, je vais commencer.
D'accord. Alors, on y va.
On va parler justement des conséquences des automnes plus doux sur la faune.
Ah oui?
C'est tiré du blog de Eve Christian sur le site de Radio-Canada. Puis ça a été publié la semaine dernière, jeudi dernier, le 8 octobre. Mm-hmm. Alors, on le sait, puis on l'observe, puis on aime ça, la relative douceur des automnes depuis quelques années qui retarde l'arrivée de la froidure. On aime ça.
Certainement. Enfin, mais ça augure pas, que des bonnes choses, c'est sûr.
Des fois oui, des fois non. Oui. Moi, comme ancien gestionnaire, je sentais aussi que les employés commençaient à prendre leurs vacances plus tard.
Ah oui, hein?
Mmh. Ah oui, c'était difficile de gérer le mois d'août. Parce que tout le monde voulait aller en vacances au mois d'août.
Et même septembre.
Il y a quelques... Oui, mais au mois d'août, parce que les gens qui ont des enfants, il faut qu'ils respectent les dates d'école.
Oui, oui. Et puis les célibataires veulent partir en septembre.
Oui, exactement.
Je vous avouerais que ça m'a tenté aussi.
On revient vers la faune.
Oui.
La faune des animaux et non pas la faune des humains. Mm-hmm. Alors, il y a plusieurs chercheurs américains et britanniques qui se penchent actuellement sur l'impact des changements climatiques sur la saison d'automne. Les effets varient d'une espèce à l'autre. Certaines espèces adaptent leur calendrier d'activité au gré de la température qui s'élève, alors que d'autres doivent respecter certains critères comme la durée du jour. Puis là, ça désynchronise ainsi certaines parties de l'écosystème. Alors, ils doivent s'adapter à ces situations-là. Je vous parle, par exemple, de certaines espèces dont la migration survient plus tard.
Ah.
Ils décident de rester plus longtemps, finalement.
Ben oui.
Ils peuvent faire face à un manque de nourriture. Car dans plusieurs endroits dans l'hémisphère nord, les arbustes puis les arbres fruitiers, eux autres, ils ont fini de donner leurs fruits. Alors, étant arrivés à maturation, plus tôt en saison, même à cause de la chaleur. Donc, ces difficultés, c'est particulièrement remarqué pour une espèce de petit oiseau chanteur qui s'appelle la paruline rayée. Et eux autres, c'est assez spécial, leur migration. C'est un exploit extraordinaire de ce genre-là sur la planète. Elle parcourt sans pause les quelques 2500 kilomètres qui séparent la Nouvelle-Angleterre de l'Amérique du Sud en 3 jours.
Ça, c'est spectaculaire. Ça m'émeut aux larmes.
Oui. C'est très impressionnant.
C'est parce que, je veux dire, c'est tout petit, là, ça. Là.
Oui.
C'est grand comme la main, ça.
Oui. Puis là, ils partent sans arrêt pendant 3 jours, puis ils passent à travers le continent quasiment. Alors, c'est important qu'il y ait de la nourriture, des réserves de nourriture pour pouvoir durer ces 3 jours-là. Et le fait que les automnes sont plus doux, il va falloir qu'ils s'adaptent, puis peut-être qu'ils partent un peu plus tôt pour pas être en manque de nourriture, parce que plus tard, il n'y en aura plus de nourriture.
Puis de toute façon, il n'y a rien de plus triste que de voir, pardon, j'ai un chat dans la gorge, de voir une envolée d'outardes dans la neige, parce que ça arrive, elle part trop tard, et tu les vois voler contre la neige, contre le vent, ça me fend le cœur. Ouais. J'ai beau savoir que quelques centaines de kilomètres plus loin, ça va aller mieux, là. Si tu dis, allez les filles, l'an prochain, partez un peu plus tôt.
Un autre phénomène intéressant auquel on pense pas, en Alaska, dans le Grand Nord, le fait que les températures soient plus douces avant l'hiver, ça permet aux petits animaux de pouvoir survivre et grandir plus fort.
Ah!
Alors, il y a un taux de survie plus important des petits qui naissent en Alaska.
Okay.
Je parle pas des enfants, je parle des animaux.
Mmh.
À cause du fait que le temps est plus clément jusqu'à l'hiver.
Ah ben
alors
oui.
Ça, c'est des phénomènes qui sont intéressants.
Oui, puis qui sont positifs. Mmh. Parce qu'on parle toujours de réchauffement égal négatif, mmh. mais il y a des points positifs dont on parle moins souvent, et je trouve ça bien.
Puis je vous parle d'un petit insecte que vous connaissez bien, le monarque, le papillon monarque.
Ah ben oui, oui.
On a tous appris que, bon, il migre tous les ans vers le centre du Mexique. Et depuis les années 90, cette migration avait diminué presque totalement, de 90 % entre autres à cause du glyphosate.
Okay.
J'étais sûr que toutes les deux, vous le saviez.
Oui.
Le glyphosate, c'est un herbicide largement utilisé dans le Midwest américain, qui a presque fait disparaître l'asclépiade, la seule et unique plante sur laquelle les papillons monarques déposent leurs larves. Mm-hmm.
Ah.
Alors, l'impact des automnes plus chauds, c'est que l'asclépiade pourrait s'étendre plus vers le nord, vers le Canada et les États américains du Nord, et là, il ne serait pas sujet à cet herbicide-là.
Okay.
Donc, la plante pourrait grandir davantage.
Okay.
Et là, le papillon monarque pourrait avoir son site de reproduction.
Okay.
Et là, il pourrait en avoir plus.
Ah, OK.
Alors, autre effet positif
de ce
réchauffement-là.
Oui. Mm-hmm.
Je vais finir par quelques effets négatifs.
Bon, ben oui.
Un en particulier qu'on va comprendre facilement. Avec cette chaleur-là, les maringouins, ils vivent plus longtemps.
Ils prolifèrent.
Oui. Et chez nous, ça veut dire plus de moustiques et de tiques porteurs de la dengue, de la maladie de Lyme et du virus du Nil occidental. Mm. S'ils sont encore dans les environs après le départ des oiseaux migrateurs, qui sont normalement leur cible de choix, vers qui ils vont se tourner pour s'abreuver de sang?
Oui, d'accord.
Surprise,
c'est
on
nous.
Est d'accord.
D'ailleurs, statistiquement, les chiffres indiquent qu'en automne, les mammifères, dont l'homme, se font piquer davantage et le nombre d'infections dues au virus du Nil occidental augmente.
Ah oui.
Alors, si l'automne s'étend,
ben
ce phénomène-là augmente davantage. On remarque aussi que même en France, ils ont peur que le rhume du foin, la fièvre des foins, finir par le dire, va augmenter parce que l'ambroisie qui vient de l'Amérique du Nord pourrait aller s'établir à cet endroit-là.
Ah.
Et là, la fièvre des foins pourrait prendre place en France. Mais il y a des belles choses en France aussi.
Ben oui. Regardez devant vous. Marie Lalonde.
Alors, on va pas faire la sieste, mais je vais vous en parler.
Oh,
ça, c'est quand même un peu dur.
Ah, c'est difficile, oui. Alors, la sieste à la garderie, c'est un texte publié sur le site Naître et grandir.
Mm-hmm.
L'auteur du texte original, c'est Gilles Quentin. C'est un professeur spécialiste en éducation à la petite enfance. C'est un texte qui date, il a été publié en novembre 2011, mais son texte a été adapté récemment pour le web par l'équipe de Naître et grandir.
Et c'est toujours de toute façon.
Tout à fait
et
actuel.
Ce sera toujours d'actualité.
Tout à fait, oui, complètement. Fait à noter, c'est un site qui est vraiment intéressant, qui est rempli de ressources pour les parents, les éducateurs, et on peut écouter certains textes en cliquant sur un lien, ou bien on peut les télécharger en format MP3. C'est intéressant parce qu'on peut les entendre, les textes. Alors, la période de la sieste à la garderie, ça peut être un moment difficile à vivre pour certains enfants, particulièrement en début d'année. On parle de l'année scolaire, évidemment. Lorsque les enfants changent de groupe, ils ne retrouvent pas toujours les points de repère et le rituel auquel ils étaient habitués. De même, lors de l'intégration dans une nouvelle garderie, les enfants deviennent parfois inquiets au moment de la sieste. Pour être capable de se laisser aller au sommeil, un enfant doit se sentir pleinement en confiance. Afin d'aider ses enfants, l'éducatrice en garderie aura avantage à introduire un rituel. Le rituel pour les enfants, là, c'est tellement, tellement précieux.
Ouais.
Donc, un rituel prévisible, assurer une présence réconfortante et constante au moment de la sieste. Malgré tout, certains enfants peuvent continuer à bouger, à rouler d'un côté à l'autre et à faire du bruit. et évidemment déranger tout le monde, ce qui est moins agréable. Les besoins en matière de repos varient considérablement d'un enfant à l'autre. Ils changent aussi au fur et à mesure que les enfants grandissent. Certains enfants qui ont besoin de dormir une heure ou plus l'après-midi, alors que d'autres, vers 4 ans, se contenteront d'une courte période de détente. Mm-hmm. Pour eux, c'est suffisant de s'étendre sur un matelas avec un jeu calme. Dans un groupe d'enfants de 4 ans, il arrive que des enfants s'endorment seulement à l'occasion. Leur sieste peut alors bouleverser leur routine du soir. Mm-hmm. Et celle des parents, évidemment, à la maison, et retarder l'heure du coucher. Dans une telle situation, vous pouvez être tenté de demander à l'éducatrice de ne pas coucher votre enfant l'après-midi. Mais avant d'en venir à cette solution-là, vous assurez deux choses. La première, c'est que la sieste à la garderie ne dure pas plus de 2 heures. Et ouais. qu'elle a lieu en début d'après-midi, mm-hmm. pas après 15 heures. Mm-hmm. Autrement, ça peut nuire complètement au sommeil du soir. Deuxième chose dont il faut s'assurer, c'est que votre enfant n'a vraiment plus besoin de faire la sieste. Ça mm-hmm. se peut, ça. Sinon, le manque de sommeil pourrait le rendre maussade et malheureux. Pour comprendre le réel besoin de repos de votre enfant, vous et l'éducatrice devez l'observer attentivement. Mm-hmm. On discute ensuite avec l'éducatrice afin de trouver la meilleure solution qui répondra aux besoins de sommeil. Si vous déterminez que votre enfant est capable de passer une bonne journée sans dormir après le dîner, son éducatrice pourrait modifier son intervention. Au lieu d'imposer la sieste, elle pourrait laisser regarder quelques livres calmement mm-hmm. pendant une quinzaine de minutes, puis ensuite elle pourrait l'inviter à faire des jeux de table mm-hmm. en silence. C'est une nouvelle façon de procéder qui tient compte des besoins de votre enfant sans déranger les autres, idéalement, si ça fonctionne et si l'éducatrice accepte. Parce que dans certains milieux de garderie, la sieste est obligatoire oui. pour tout le monde, que tu en aies besoin ou pas. Oui.
J'imagine aussi que pendant ce temps-là, ça permet aux gens qui travaillent avec tes enfants de pouvoir
prendre une pause
oui. d'une part, et puis aussi peut-être assumer des tâches oui. qu'elles ou qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils sont trop occupés avec les enfants.
Oui.
Exact.
Ou échanger entre eux sur certaines oui. situations.
C'est ça, exactement.
C'est un moment qui est assez important.
Oui, pour tout le monde, je pense. Oui. Oui.
En complément d'informations, j'ai trouvé sur le même site une petite capsule à propos oui. du sommeil des enfants puis du lien entre la sieste et le coucher du soir. Selon les pédiatres, une sieste de 1 ou 2 heures, généralement mm-hmm. en début d'après-midi, est nécessaire jusqu'à l'âge de 4 ou 5 ans. Elle peut être conservée tant que votre enfant en a besoin, surtout si ça nuit pas à l'heure du coucher. Mm-hmm. La sieste n'a que des avantages. Alors, on
oui,
le sait,
d'accord.
on est convaincu
oui,
de
oui.
ça. Elle permet à l'enfant, notamment, de se libérer des tensions accumulées durant la matinée.
oui.
Il sera donc moins agité le soir et vous aurez plus de facilité à le mettre au lit. Si votre petit a du mal à se coucher le soir, c'est peut-être parce qu'il a passé une journée très ou trop excitante avec ses oui. amis. On privilégie les activités relaxantes en soirée, la lecture, les casse-têtes, le dessin. Mm-hmm. Puis sieste ou pas, on se rappelle que le sommeil de nos enfants peut être troublé par toutes sortes d'événements et par son niveau mm-hmm. à lui d'anxiété.
Oui, oui,
il n'y a
oui.
pas que la sieste qui peut perturber ça. Donc, 2 textes publiés sur le site Naître et grandir.
Merci beaucoup, Marie. Puisque les élections, c'est pour lundi, pour les personnes handicapées, vous avez un petit papier à nous lire, je pense.
Oui,
hein,
bien,
Yvan.
J'ai Je tire ça du magazine de Moelle épinière et motricité Québec, de été 2015. Et d'abord, je dois dire que je suis un travailleur d'élection, mais je suis pas porte-parole pour Élections Canada.
Non, non, c'est ça.
Alors, je fais tout juste de reprendre cet article-là qui correspond tout à fait à la réalité que moi, j'ai à gérer pendant les élections. Alors, c'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Matt Vosilinek, qui habite à Guelph, en Ontario. Et depuis l'âge de 27 ans, il souffre d'une rare maladie neurologique qui l'oblige à utiliser un fauteuil roulant et un chien d'assistance. Malgré son handicap, Matt est très actif et autonome. C'est aussi un citoyen engagé qui milite pour l'accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant. Et lors des deux dernières élections fédérales, Matt s'est retrouvé devant un bureau de scrutin qui n'était pas accessible puisqu'il ne pouvait en ouvrir les portes aussi simplement que ça.
C'est bien. Eh oui.
Alors, outré par cette situation, il dénonce Élections Canada au Tribunal canadien des droits de la personne. Une entente hors cours découle de cette démarche et Élections Canada s'engage à ce qu'à la prochaine élection fédérale, c'est-à-dire celle qui est en cours présentement, et je peux en témoigner, tous les lieux de scrutin du Canada soient dotés d'ouvre-portes automatiques, ou alors que des membres du personnel seront chargés de l'ouverture des portes. Alors, effectivement, dans ma gestion de mes équipes, j'ai en rotation des gens qui sont à l'extérieur pour ouvrir les portes et s'assurer que toutes les personnes puissent pénétrer facilement.
Oh, ben bravo, parce qu'il y avait un papier récemment, est-ce que c'est dans le journal de Montréal ou dans la presse? Vous savez, nous sommes très impliqués aussi là-dedans. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de places à Montréal où les handicapés arrivent là et ils ne peuvent pas aller voter, soit parce qu'il y a des marches, soit parce que c'est trop étroit, le fauteuil passe pas. En tout cas, et on en parlait encore assez régulièrement, et Linda Gauthier, qui est la présidente du RAPLIC, qui vient d'ailleurs souvent ici et qui participe souvent aux émissions avec Luc Fortin, dit « Pourtant, on se bat à chaque élection, et on est encore laissé pour compte en disant « C'est vrai qu'il y a des améliorations, c'est vrai ». Et là, je pense qu'elle fait référence à des gens comme vous, à des gens de bonne volonté qui prennent ça à cœur et qui font, mais je pense aussi que vous avez une espèce peut-être de conscience que d'autres n'ont pas. Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il y a encore malheureusement trop d'endroits où les gens se présentent et finalement, ils ne peuvent pas aller voter ou alors ils sont obligés de passer par des petites portes.
Oui.
Ils sont obligés de faire des détours, mais ça, à la limite, ça ne les dérange pas pourvu que...
Au moins qu'ils puissent entrer.
Ils puissent entrer, quoi. Ils puissent aller...
Si je me fie aussi à l'expérience qu'on a connue en fin de semaine dernière par le vote par anticipation, on a... créer sur place toutes sortes de choses. Par exemple, la table pour voter est assez haute. C'est pour des personnes qui sont debout. Alors, la personne qui arrive en chaise roulante, moi, j'ai trouvé une boîte que je mets sur les genoux des gens. Puis là, les gens peuvent mettre le bulletin de vote et voter à cet endroit.
Exactement.
Petites choses, vraiment.
Ce sont des petites choses, mais ça vous honore, Yvan, parce qu'il y a malheureusement encore trop d'endroits inaccessibles lorsqu'on veut aller se prévoir de son droit de citoyen. Prévaloir aurait été mieux que prévoir. Ah, la musique.
La musique qu'on aime, mais non seulement on aime ça, mais apprendre à jouer de la musique stimule le cerveau des enfants.
Oui.
Des chercheurs de l'Université de Northwestern en Illinois ont obtenu des preuves renversantes sur les effets de l'apprentissage de la musique sur le cerveau des jeunes enfants. La formation musicale améliore considérablement les capacités du cerveau et le développement du système nerveux, ce qui rend les enfants plus aptes à acquérir le langage, la parole, la mémoire, l'attention et les émotions vocales. Même avec seulement 20 minutes par jour, les enfants ont obtenu des changements majeurs de leur capacité après seulement un an. Il a été prouvé par le passé que ces capacités cognitives plus développées des musiciens les rendaient plus aptes à apprendre différentes langues. C'est assez intéressant. Ça peut également les aider à mieux apprendre à l'école, même dans des classes bruyantes. Bien que les enfants soient les bienfaits, pas les enfants, les bienfaits soient grandement mesurables. Lorsqu'on commence à jouer d'un instrument à un jeune âge, les bénéfices de la formation musicale sont significatifs à tous les âges, ajoutent les chercheurs.
Ah oui, non, alors, c'est très, très chouette. Oui, vous vouliez ajouter
juste
quelque chose,
que
Yvon?
Le docteur Julien offre aussi un service qui s'appelle Le Garage en musique, qui va en plein en ligne avec ce que Marie vient de nous raconter.
Ah, c'est bien. Puis il y a quelques jours, j'entendais parler par je ne sais plus quel collaborateur bénévole qu'il y avait eu aussi une recherche. Qu'est-ce qui est le mieux pour les enfants, le sport ou la musique? Bon, finalement, ils en viennent à la conclusion que exactement que le sport développe certaines
facultés.
Parties, facultés du cerveau que la musique ne développe pas
et tout se complète.
Et tout se complète. Ouais. Mais ah. Oh, un petit mot d'enfant.
Un petit mot d'enfant. J'en ai quelques-uns aujourd'hui.
D'accord.
Alors, premier, donc, musique,
oui.
Mozart.
Oui, oui.
Artiste qui a fait beaucoup de musique de messe pour les enterrements, et c'est pour ça que les morts l'aiment bien.
On aime tellement ça, on en veut un autre,
On en
Marie.
Veut un autre, alors. Et c'est vraiment très court, celui-là. Mâle, c'est papa en langage animal.
Je vous rappelle que ces rires francs que vous entendez émanent de ces deux voix de service que sont Marie Lalande et Yvan Deslauriers, très fidèles au poste le jeudi en ma compagnie. C'est Clotilde Seille avec ces deux collaborateurs formidables qui vous accompagnent et qui seront là encore pour la prochaine demi-heure à l'émission Les Voix de Service. Restez des nôtres. Les Voix de Service, Canal M, Clotilde, Yvan et Marie. Mmh. On continue. Alors Marie, avec sa douce voix.
Alors, je vous parle de deux pandas qui sont nés au zoo de Toronto.
Oh.
C'est un texte qui a été publié mardi cette semaine, le 13 octobre, sur le site de ici, radiocanada.ca. Uh-huh. La panda femelle du zoo de Toronto, Er Shun, a accouché de jumeaux tôt mardi matin. Le premier bébé est né à 3h31, suivi du deuxième 13 minutes plus tard. Le sexe des bébés n'était pas encore connu mardi. L'un d'eux pesait, imaginez-vous ça, là, 187,7 grammes.
Grammes.
Et l'autre, 115 grammes. C'est minuscule.
Ça tient dans la main aussi.
Oui, tout petit, tout petit.
Les deux,
oui. C'est tout rose. Leur poids est normal. C'est étonnant, mais c'est normal pour des bébés pandas, l'une des espèces pour lesquelles les rejetons sont les plus petits.
Oui, par rapport
au poids de leur mère. Le personnel du zoo raconte que Er Shun fait preuve d'un excellent instinct maternel, ayant notamment nettoyé ses petits après leur naissance. Les bébés ont été placés dans un incubateur, puis ils alternent entre l'incubateur et la maman panda. C'est une nouvelle merveilleuse, mais les petits sont très vulnérables à cette taille.
Aïe, aïe.
Les prochains jours seront déterminants pour leur survie. Le public ne pourra pas voir la mère et sa progéniture avant mars prochain. Quand même, c'est long. Mais je note que sur le site de iciradiocanada.ca, on peut voir une vidéo et la femelle panda en train de mettre bas premier petit bébé. Ouais. Er Shun avait été inséminé artificiellement en mai dernier. Mm-hmm. Le zoo de Toronto avait essayé en vain d'accoupler ces deux pandas naturellement. Mm-hmm. Le panda mâle, Damao, ayant refusé de s'intéresser à sa partenaire, qui n'est fertile, écoutez bien ça, qu'une fois par année, pendant 24 à 72 heures.
Oh boy, c'est maintenant.
C'est là que ça se passe.
Si regarde le football cette journée-là, c'est fait.
Puis il n'était pas intéressé par cette femelle-là.
Oh,
alors t'imagines,
Dieu.
On ne connaît pas encore l'identité du père, étant donné que le personnel du zoo avait utilisé le sperme de trois pandas différents pour maximiser les chances que sa femelle tombe enceinte. Il pourrait s'écouler plusieurs mois avant que l'on puisse identifier le père ainsi que le sexe des bébés.
Je pensais que le père, c'est celui qui distribuait les cigares.
Je pense pas que cette coutume est en vigueur chez les pandas.
Chez les pandas, c'est pas encore.
Non, pas encore. La naissance de pandas en captivité est un phénomène rare qui est suivi de près. En août, deux pandas sont nés au zoo de Washington, mais le plus petit des deux est mort. Le panda est une espèce menacée. Il n'en reste qu'environ 3000 dans le monde, dont 1400 en captivité. Alors, c'est la moitié de la population, presque. Damao et Ershun sont prêtés par la Chine. Ils sont arrivés à Toronto en 2013 et y resteront jusqu'en 2018. Ils vont alors déménager au zoo de Calgary. Puis, je suis allée chercher aussi sur le site Espace pour la vie, alors tout ce qui regroupe le jardin botanique, le biodôme et tout ça. J'y ai trouvé une section qui s'appelle « Naissances et faits inusités » où on présente un carnet des naissances au biodôme. Le biodôme, c'est le théâtre de nombreuses naissances à l'intérieur de ces cinq écosystèmes. La reproduction en captivité représente souvent de grands enjeux au niveau scientifique et les conditions pour la facilité ne sont pas toujours au rendez-vous. Au biodôme, certains animaux faisant partie des espèces menacées et dont les naissances en captivité sont très, très rares, se sont malgré tout reproduits, ce qui représente une grande réussite pour le personnel de l'institution. En mai 2012, naissance d'un bébé lynx, qui est d'ailleurs très, très bien documenté sur le site. On raconte tout ça, c'est vraiment très détaillé. Décembre 2010, période de naissance importante, 8 nouveaux venus, 7 bébés manchots dans les régions subpolaires et un petit singe calimico dans la forêt tropicale humide. Et novembre 2010, alors que l'automne était bel et bien installé au Québec, c'était le printemps et la saison des naissances dans les régions subpolaires, du côté des îles subantarctiques. Deux bébés manchots, un gorfou sauteur et un gorfou doré ont ainsi vu le jour.
Oh, voilà. adorable. Aviez-vous vu il y a quelques mois, peut-être un an ou deux maintenant, je ne sais plus, il y avait une vidéo absolument hilarante. Moi, je la regardais là quand j'avais le cafard, le bourdon, les bleus, appelez ça comme vous voulez. Je la regardais rien que pour me faire rire. C'était dans un enclos, maman panda et tout petit bébé, parce qu'on sait, mais lui, il était un petit peu plus grand. Il commençait, mais il était quand même gros comme mon poing. Et tous les deux, elle dormait à moitié, mais assise, vous savez, comme les pandas dorment parfois, puis avec les bras ballants comme ça, puis la tête comme ça, puis elle cognait des clous, comme on dit. Et à un moment donné, le petit envoyait un éternuement, mais qui venait de nulle part, mais énorme. Et ça faisait, et là, la mère faisait, il y avait une réaction de la mère. Oh, écoutez, faites éternuement bébé panda. C'est hilarant. Moi, tiens, d'ailleurs, il va falloir que je me le refasse. Rémi, tu la connaissais aussi, cette vidéo-là?
Ouais, puis je sais pas combien de temps elle a, mais elle a beaucoup plus que 2 ou 3 ans.
Ah oui!
Puis c'est une des... à l'époque, en tout cas, de cette information, c'était il y a 2-3 ans, c'est une des vidéos les plus regardées de YouTube. Là.
C'est
viral. Elle a fait un buzz énorme. Puis South Park ont repris cette vidéo-là. Puis
ils
ont
fait un... Qui a repris ça?
South Park.
Ah, South Park.
Le cartoon américain.
Ok.
Très satirique, qui
détruit
l'actualité un peu tout le temps. Là. Oui. Ils avaient fait un épisode spécial sur tout... les gros buzz de YouTube, puis le panda était un des personnages principaux.
Bah, tu vois, il y a encore des gens qui finalement connaissent pas encore ça. Alors vraiment, allez voir ça, c'est trop drôle. Yvan.
Oui. Alors moi, je vous parle de hockey. Puis je parle pas de Mickey Subban cette fois-ci.
D'accord.
Alors à la recherche d'une rondelle qui parle.
Ah, ça c'est formidable, ça.
C'est vraiment spécial et je suis allé, c'est un texte d'Émilie Dubreuil, un court texte d'Émilie Dubreuil sur le site de Radio-Canada.ca, c'est le 11 octobre. Puis après ça, je suis allé sur le site de l'équipe en question, puis j'ai des petites affaires à vous raconter
très
là-dessus.
Bien.
Alors, c'est des professeurs de l'UQAM, puis je peux vous dire, c'est pas juste des professeurs, il y a des étudiants aussi, qui planchent sur une rondelle intelligente pour aider les joueurs de hockey aveugles. C'est un défi complexe. Puis en fait, le but de ça, c'est que si on réussit à construire une rondelle intelligente qui fait des sons qui permet aux personnes aveugles de savoir où est la rondelle, on va peut-être pouvoir avoir un sport qui va s'étendre de façon internationale et peut-être avoir même aux Jeux paralympiques d'hiver une compétition de hockey sonore.
Ah, alors, ce serait épatant.
Je vous raconte.
Oui.
Donc, Il y a une ligue de garage qui existe, comme n'importe quelle ligue de garage. Des blagues dans le vestiaire, c'était un bon exercice. Parfois, il y a même une bière après le match. Sauf que l'équipe des hiboux, j'aime bien le nom.
Oui.
Il y a personne qui voit clair, au sens propre. Là. Tous les joueurs sont aveugles ou partiellement aveugles.
OK.
Or, jouer au hockey leur procure un sentiment de normalité.
Totalement, là, OK.
Et un groupe d'appartenance positif. Puis j'ai rien lu sur les arbitres par rapport à ça, par exemple. En tout cas.
Parce que si l'arbitre est aveugle aussi, ça non, va mal. Ça,
j'ai vu un arbitre qui avait des lunettes, mais je cherche encore le rôle de l'arbitre dans ces conditions. En tout cas, les hiboux croient tellement au bienfait du sport national sur le moral des non-voyants qu'ils veulent développer le sport puis l'amener aux Jeux paralympiques. Le petit problème, c'est qu'il n'y a pas de rondelle. Présentement, ils jouent avec une boîte de conserve.
Parce que ça fait du bruit.
Parce que ça fait du bruit. Le petit problème, c'est que la boîte de conserve, quand elle est dans les airs, elle fait plus de bruit.
Ah ben oui. Ah,
alors, il s'agit de développer une rondelle. Puis l'histoire de la rondelle, c'est que c'est un objet standard qui peut être exporté, une rondelle, avec des puces électroniques qui va changer le son de la rondelle selon la vitesse de déplacement de la rondelle et selon si elle est sur la glace ou si elle est dans les airs.
Mm-hmm. Wow.
Alors, on a mis là-dessus des enseignants et des étudiants de l'UQAM qui travaillent bénévolement là-dessus pour développer la chose. Et ils arrivent presque à leur but. C'est vraiment intéressant. Il y a un petit film, d'ailleurs, sur le site où on voit les joueurs des hiboux qui s'échangent la rondelle.
Ouais,
rondelle qui est plus grosse qu'une rondelle ordinaire, d'ailleurs, puis qu'il faut qu'elle soit plus grosse à cause des choses qu'elle contient. Alors, je suis allé sur le site de l'équipe des hiboux.
C'est chouette,
oui, effectivement.
Excusez-moi. Non, j'ai pas pu l'éviter, celle-là. Non, elle était trop facile.
Hein? Et là, ils nous racontent... D'abord, c'est une équipe qui existe depuis 1976. C'est la plus vieille équipe pour personnes aveugles au Canada, puis probablement dans le monde. C'est la plus renommée, la mieux organisée. En collaboration avec les départements d'informatique et de design de l'UQAM, les Hiboux de Montréal travaillent à mettre au point une rondelle de hockey parfaitement adaptée aux handicapés visuels. Cette rondelle, plus volumineuse qu'une rondelle régulière, est dotée d'un dispositif électronique devant émettre un son en fonction de sa vitesse et de sa situation dans les airs. Ce projet exige des ressources. C'est écrit dans l'article qu'ils cherchent 10 000 $. Mais je sais, parce que je suis allé voir, il y a un site de sociofinancement, ils cherchent 15 000 $.
Mm-hmm.
Ils sont rendus à 13 200 $ de recueillis. Il y a 88 % de la somme qui a été recueillie. Il leur reste 32 jours pour recueillir ce qui reste. Alors, on peut aller sur le site de Hibou Montréal, faire le lien avec le financement de ce projet-là, puis on peut y arriver.
Et le site, c'est facile, Hibou Montréal?
Oui, c'est tout simplement le fameux www.hiboudemontréal.
Ah, Hibou de Montréal.
Hibou de Montréal, Hibou avec un X de Montréal, puis ça va arriver là. À ce jour, je vous le disais, 13 200 $ recueillis. Le prochain match des Hiboux, c'est les Noirs contre les Oranges, hein, la Ligue. Ça va avoir lieu le 19 octobre à l'Aréna Francis Bouillon à 19h. Et puis, je peux vous dire, pour votre information, que le 10 octobre dernier, les Oranges ont battu les Noirs 6-3.
Moi, je trouve ça épatant. Je vous remercie beaucoup d'être venu à notre rencontre ce matin pour nous parler de ça. C'est génial. J'adore.
Bienvenue.
N'importe quoi. Je me tourne maintenant vers Marie. Marie Lalonde.
Alors, je vous pose la question. Texter en prenant soin de bébé? Point d'interrogation.
J'ai peut-être pas une très bonne idée.
Ah non?
Bientôt, ça va être pas texté jamais, là.
Mais de toute façon, attendez, changer une couche pleine de enfin, alors, bon, avec, en textant, ça doit pas être évident.
Non, non, mais on parle d'allaiter ici. Précisons, on va restreindre le sujet un peu. On parle de l'allaitement.
Ah! Oui. Avant l'étape de l'accouchement.
Oui, c'est ça. Ah, c'est un texte de Kathleen Couillard qui a été publié le 13 octobre. Toujours sur le site Naître et Grandir. Ça a été ma source d'inspiration cette semaine. Le téléphone intelligent nuit à l'attachement entre la mère et son bébé. C'est la position controversée, disons-le, défendue par des professionnels au féminin de la santé en Californie. Celle-ci s'inquiète en effet de l'utilisation extrême du téléphone intelligent par certaines mères au moment du boire de leur enfant, que ce soit au sein ou au biberon. Selon une psychologue californienne, le moment où une mère nourrit son enfant serait essentiel à la formation du lien d'attachement. On a beaucoup parlé de l'importance de ce lien-là. Par exemple, le bébé en profiterait pour regarder sa mère et lui sourire. Il s'attendrait alors à une réaction de sa part. Or, il semble que de plus en plus de mères profitent plutôt de ce moment pour texter ou utiliser les médias sociaux. Alors, je vois vos yeux qui... Oui, vraiment. Moi aussi, je partage ceci. Je continue quand même. Le téléphone intelligent deviendrait donc une distraction pour la mère qui manquerait ainsi les signaux importants que son bébé lui envoie. De plus, elle reconnaîtrait moins bien que son bébé a encore faim ou, au contraire, qu'il a terminé. Pour les mères qui allaitent, l'utilisation d'un téléphone intelligent pendant la tétée pourrait nuire à la mise au sein, suggère une consultante en lactation californienne. Alors, on est encore en Californie ici. Celle-ci raconte, par exemple, que les mères à qui elle enseigne la mise au sein sont souvent distraites par les vibrations de leur téléphone. Lorsqu'une mère est occupée à texter, elle serait également moins en mesure de détecter un problème de mise au sein. La consultante croit d'ailleurs que les cours prénataux devraient mettre les futures mères en garde contre l'utilisation excessive du téléphone intelligent. Alors, on s'en doute, une telle prise de position a fait réagir plusieurs mères sur les médias sociaux. Dans un article publié en Nouvelle-Zélande, donc on n'est plus en Californie ici, une consultante en lactation est d'un autre avis. Selon elle, l'attachement se construit à chaque moment de la journée et pas seulement lors des boires. Les mères passent plusieurs heures avec leur bébé, elles en profitent pour lui chanter une berceuse, le masser ou le porter. Envoyer quelques courriels ou consulter Facebook pendant un boire ne devrait donc pas avoir des répercussions bien alarmantes, croit la consultante. L'article souligne également que l'utilisation du téléphone intelligent peut avoir des avantages. Les soins d'un bébé sont parfois très prenants et la possibilité de s'évader un instant serait une grande source de réconfort, en particulier pour une mère clouée au sofa par une tétée groupée. Alors moi, j'ai appris quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est qu'une tétée groupée? C'est que le bébé boit, s'endort, se réveille peu de temps après et là, il a encore faim. Alors donc, c'est une tétée qui s'étire.
Je pensais que c'était des jumeaux.
Non. C'est vraiment une tétée qui dure parce que c'est comme si le bébé est insatiable. Alors, on s'en doute, hein, c'est épuisant pour la maman qui allaite ça ou qui même qui donne le biberon de toute façon. De plus, les médias sociaux permettraient de briser l'isolement ressenti par certaines femmes. Enfin, même avant l'arrivée des textos, les mères ne regardaient pas leur bébé dans les yeux pendant toute la durée du boire, souligne la consultante.
Regardez la télé?
J'ai fait ça moi aussi.
Je ne donnais pas la tétée, mais
on avait compris.
Plusieurs mères ont déjà nourri leur bébé en lisant. Moi, j'ai fait ça souvent. Ou en regardant la télévision, voilà. Ouais. Elle conclut donc que l'idéal est de maintenir un équilibre entre le temps passé en interaction avec le bébé et le temps écran. Il est inutile, selon elle, d'imposer davantage de restrictions aux nouvelles mères, puisque cela risque plutôt d'augmenter leur niveau de stress et leur sentiment de culpabilité, disons-le.
Moi, je vais vous dire, je suis d'accord avec rien là-dedans, en fait. Mais peu importe, parce que c'est bien que vous l'ayez lu, parce que ça crée une discussion dans les chaumières en ce moment.
C'est le but.
C'est parfait. Oui. Mais moi, ce que je vois là-dedans, c'est l'enfant. À un moment donné, puis là, on va dire, oui, mais quand t'en as pas eu. Ben oui, mais il me semble que...
Oh, mais moi, j'en ai eu, puis je suis d'accord avec toi.
Tu sais, à un moment donné, faut le lâcher aussi, tu sais. dire, oui, c'est important. J'imagine que ça doit être extraordinaire d'avoir un enfant et de l'allaiter et tout ça. Et mais il y a un moment donné où, on existe aussi. Oui.
Puis moi, je retiens que ce lien d'attachement là, il peut être créé à plein d'autres moments. L'important, c'est l'équilibre.
Oui, c'est ça.
Pour avoir une vie finalement.
Oui. Et puis ça, puis comme tu sais, toujours faites ci, faites ça. Ouais. Attention à ci,
c'est
attention
très, très à ça. Prêchi, prêcheur.
C'est ça. C'est exactement l'expression que je cherchais. Ouais. Merci Marie. Yvan.
Alors, Clotilde.
Oui.
Il y a deux semaines, tu m'as montré des magazines que tu avais reçus.
Oui.
Et alors, il y en a un qui a retenu mon attention à tel point que je suis allé le chercher hier.
C'est vrai?
Oui, c'est le magazine Paraquad, été 2015. C'est un magazine qui est conçu à part Moelle Épinière et Motricité Québec.
Oui.
Okay. Et il y a un article là-dedans qui a vraiment retenu mon attention. Ça s'appelle « Les chameaux sont prêts ».
Oui. Et on ne parle pas d'animaux. C'est ça, hein?
C'est ça. On ne parle pas d'animaux. Alors, jusqu'à ce moment-là, tout allait bien. Ben, ça va encore bien, remarquez. Mais, alors, je prépare mon article. Puis, l'auteur de l'article, dans ces magazines-là, souvent, les auteurs, c'est des gens qui font le projet eux-mêmes.
Oui.
Ou des parents, ou des... Alors, ici, c'est un monsieur qui s'appelle Jean-François Martin, qui est professeur au Cégep du Vieux-Montréal.
OK.
Et ce matin, en faisant ma dernière lecture, juste avant d'entrer en onde, je m'aperçois que sur Facebook, il est là... ce monsieur Jean-François Martin, puis il est dans le site de Vues et Voix.
Ah ben oui,
de Canal M.
De Canal M, parce qu'il était co-animateur de l'émission Accès libre au mois de septembre.
Oui, c'est ça, exactement.
Alors, je vous en parle quand même plus rapidement peut-être, mais...
Non, mais il faut quand même, parce que, écoutez, là, les gens ne sont peut-être pas branchés sur leur radio 24 heures sur 24, ben, pourquoi
des fois,
pas?
Je vous raconte l'histoire autour de l'histoire, parce que c'est aussi intéressant que l'histoire elle-même. Alors, de quel chameau est-il question?
Dans cet article-là, oui.
Justement, il n'est pas question d'animal en tant que tel, mais plutôt de son utilité pour l'humain dans certaines circonstances. Et je vous éclaire là-dessus.
Oui.
Alors, M. Jean-François Martin, il y a 7 ans, il aime ça, lui, faire beaucoup de plein air. Alors, il faisait du trekking au Pérou. Et puis là, il y a une idée qui a commencé à germer dans sa tête. Lui, il dit directement dans le coco. Il a pensé combien il était chanceux de marcher dans un sentier en direction de Machu Picchu et de pouvoir admirer tous ces paysages-là. Et puis là, il a pensé aux personnes à mobilité réduite qui, pour plusieurs, peuvent pas vivre ce genre d'aventure-là. Alors lui, qui aime pas l'iniquité dans le monde, il a commencé à réfléchir de quelle façon il pourrait permettre à ces gens-là de vivre des moments aussi magiques. Et il a commencé à en parler autour de lui. Puis là, les gens, ils étaient plutôt à le décourager. C'est difficile à faire ce genre d'affaires-là. Jusqu'à temps qu'il y a quelqu'un qui a commencé à développer une espèce de sac à dos. Ce sac qui s'appelle des corps à corps. Parce que c'est une espèce de sac à dos avec une armature en métal.
Ouais.
Puis t'as deux armatures où la personne en arrière, parce qu'il porte vraiment quelqu'un.
Il porte quelqu'un.
Puis il y a une armature en arrière pour déposer les bras.
OK.
Alors, c'est vraiment corps à corps. Là.
La
promiscuité, là...
Là, il n'y a pas de doute.
Oui. La promiscuité est bien présente et permet ainsi de créer des liens incroyables.
Sûrement.
Si on veut bien les créer.
Sûrement.
C'est par le partage avec l'autre qu'on se découvre. C'est justement un des objectifs du projet, l'idée du partage, de découvrir la personne ayant une mobilité réduite. Ce sera aussi un moment privilégié pour ouvrir les yeux à la société afin de briser plusieurs préjugés qui en font obstacle à l'inclusion de tous. Alors, on est bientôt... Et là, présentement, cet automne, ils se pratiquent. Ils ont entrepris les premiers essais. Là, quand je dis « ils ont », c'est des jeunes qui sont en technique d'éducation spécialisée au Cégep du Vieux-Montréal qui vont être les chameaux.
Okay.
C'est les autres qui vont transporter gens. Et ils ont fait des essais avec des participants du Centre d'intégration à la vie active, le CIVA. Alors, c'est sûr qu'il faut qu'ils se pratiquent. C'est pas facile de transporter sur son dos une personne qui pèse environ 45 grammes. Kilogrammes. 45 grammes. Là, on est rendu dans les pandas.
Chez les bébés pandas.
Oui. 45 kilogrammes. Moi, j'ai déjà transporter des sacs à dos assez pesants, mais le sac à dos, il bouge pas, lui, tandis
non,
que la personne aussi, elle
bouge. Donc, au-delà, si je vous entends bien, d'après ce que dit cet article-là, au-delà de 45 kilos, c'est pas possible, quoi. Il faut... Est-ce qu'il y a un, il doit y avoir un poids?
Probablement. Mais là, il vise le premier essai, probablement, avec des gens de ce poids-là.
D'accord.
Alors, dans l'article, ça dit « Ne soyez pas surpris si vous apercevez un groupe de chameaux transportant des personnes sur leur dos, sur différents sentiers, ou même dans votre quartier au courant de l'automne. Ça va être eux autres qui se pratiquent. » Puis là, leur but, c'est qu'ils vont avoir tout l'automne pour s'entraîner et établir des liens dans le groupe. Puis tout ça avec un objectif en tête, soit un magnifique voyage aux Açores au mois mai 2016. Ah. Ils vont passer 12 jours là-bas à explorer ces îles et à découvrir des endroits où les yeux des deux personnes et les jambes du chameau vont être réunis.
Mmh. Ah, c'est
et
formidable.
Là-dessus, en préparant mon texte ce matin, quand je suis tombé sur la page Facebook, il y a une page Facebook sur ce projet-là. Mmh. Ça s'appelle « Caravanier de l'impossible ».
Oui.
Et on peut, j'imagine qu'on va pouvoir suivre leur travail jusqu'à ce voyage-là.
Alors, ça, les Açores, c'est prévu en 2016. Hein?
Mai 2016.
Mai 2016. C'est certain qu'on va suivre ça, en tout cas ici, sur Canal M. Merci beaucoup, Yvan. Êtes-vous amateur de vin, vous?
Oui. Amateur.
Amateur, oui, c'est ça. Savez-vous que il y a 9,6 millions de dollars qui se sont envolés à la SAQ? Ça, ce sont les pertes de revenus dues au vol à l'étalage qui ont explosé de 26% l'an dernier. Donc, en une année, 9,6 millions de dollars qui se sont envolés à la SAQ. Et là, il y a quelques chiffres, c'est dans le journal de Montréal. Par exemple, 49 500, ça, ce chiffre-là, c'est la valeur d'une bouteille de whisky rare qui a été volée en janvier dernier au magasin Signature à Montréal. Bouteille de 50 000 piastres, c'est quelque chose.
Souvent,
hein.
C'est bas,
également, 28 293, c'est un autre chiffre, c'est la valeur des bouteilles récupérées après des tentatives de vol. Donc, il y a des gens qui ont essayé, mais finalement, on les a récupérées à la porte. 330, ce sont les voleurs épinglés l'an dernier dans les 400 magasins de la société d'État. Et puis, 2250,13 sous la valeur des bouteilles volées à l'interne en 2014-2015. Ben oui, parce qu'il y a ça, aussi.
Oui. On appelle ça des fuites.
Yvan?
Dans le même domaine, si vous avez l'habitude d'inonder les réseaux sociaux des photos du contenu de votre assiette, il y a toujours il y a un verre de vin à côté.
Tellement pas.
En Allemagne, vous feriez mieux de vous abstenir. Désormais, photographier son assiette dans un restaurant y est interdit par la loi. Atteinte aux droits d'auteur, ont argué les grands chefs allemands devant les tribunaux.
Mais ils n'ont pas tort, hein? Ils n'ont pas tort. Marie.
Alors, les petites filles devraient moins jouer à la poupée et davantage avec des jouets typés garçons, comme les jeux de construction plus favorables au développement de la créativité, a estimé une influente scientifique britannique que je ne nommerai pas parce que je suis pas capable de prononcer son nom. Madame Donald, nous devons changer la manière dont nous appréhendons les garçons et les filles et ce qui est bon pour eux quand ils sont tout petits. Le choix des jouets est-il important? Je le crois, a déclaré la scientifique, professeure en physique expérimentale à l'Université de Cambridge. Nous créons des comportements sociaux en stéréotypant le type de jouets que garçons et filles reçoivent à la petite enfance, a poursuivi la spécialiste qui doit prendre prochainement la présidence de la British Science Association. Les jouets de filles sont typiquement liés à la passivité, comme peigner les cheveux des Barbie, par exemple, et non à la construction, à l'imagination, à la créativité, comme avec les Lego et les mécanos. Soulignant que son propre domaine de recherche manquait d'étudiantes, elle a estimé que le choix des jouets pouvait contribuer à construire un environnement social susceptible de tenir les femmes à l'écart de certaines professions. C'est préoccupant.
Oui, ben oui, ben, c'est préoccupant, mais en même temps, en tout cas, j'espère qu'il y a des parents qui... Ben, c'est un jeu, c'est ça, mais ben, c'est peut-être pour ça que je suis pas trop imbécile. Moi, les poupées, ça n'a jamais été bien mon truc, mais parfois, j'ai... Oh, les Lego, les machins, oh là là, oh là les mécanos, moi, je passais des heures là-dessus. Petit mot d'enfant.
Achille, le fils de Martin Petit,
oui,
qui demande à son père, est-ce que tu connais le Kilimanjaro?
Je suis très heureuse qu'on ait fini ça par un rire, mes amis. Yvan Deslauriers, Marie Lalande, merci. Je vais vous retrouver la semaine prochaine avec plaisir. Et bonjour à Christine Boucard qui n'a pas pu être là avec nous
à bientôt
aujourd'hui. Et ce sont les voies de service qui se poursuivent. Pour l'instant, je suis toute seule avec vous pour éplucher le devoir, mais dans quelques minutes, je vais aussi accueillir Thibaut Temmerman à cette émission. Alors on y va avec les élections et ce qui se dit évidemment en surface. Hein, je ne peux pas avec le temps que j'ai aller dans le fond des choses, mais quand même, par exemple ceci, Trudeau contemple une majorité, écrit Marie Vastel, correspondante parlementaire à Ottawa pour Le Devoir. Et les conservateurs s'attaquent au Parti libéral dans les publicités négatives sur la prostitution et le marijuana. La marijuana, Justin Trudeau voit défiler les sondages et semble se permettre d'y croire. Le chef libéral invite maintenant les Canadiens à lui confier un gouvernement majoritaire lundi prochain. Quant à ses rivaux conservateurs qui multiplient les attaques à son endroit, Justin Trudeau les accuse de tomber dans les bas-fonds de la politique en propageant des faussetés à son sujet. Alors, au centre du Québec, les conservateurs remporteront-ils leur pari? C'est Marco Fortier, cette fois-ci, qui signe ce papier et qui dit « Les partis sont engagés dans un sprint final endiablé à 5 jours du scrutin ». Notre journaliste Marco Fortier parcourt le Québec toute la semaine afin de témoigner de cette fin de campagne. Dans le centre du Québec, Stephen Harper mise sur 3 circonscriptions pour faire des gains au scrutin de lundi. « Je vais voter créditiste », lance à la blague un vieux monsieur de Victoriaville qui prend son déjeuner à la chic binerie chez Rosie, rue Notre-Dame au centre-ville. Entre une bouchée de bacon et une gorgée de café, ce monsieur nous rappelle qu'il existe ici un vieux fond bleu. Les électeurs les plus âgés comme lui se rappellent avec nostalgie l'époque du crédit social de Réal Caouette. André Fortin, tigre de la place, avait succédé à Caouette à la tête du parti avant de mourir dans un mystérieux accident de voiture le 24 juin 1977. D'après Marco Fortier, Stephen Harper aura bien besoin de ce microcosme conservateur du Québec pour espérer remporter l'élection de lundi. Voyage à grands frais pour Joe Oliver. Jordan Press de la presse canadienne à Ottawa écrit « Le ministre des Finances sortant, Joe Oliver, a facturé aux contribuables canadiens des milliers de dollars supplémentaires pour être placé en classe affaires. Dans ses voyages en avion, il a dépensé plus de 5 000 $ à 2 reprises pour des vols à l'intérieur même du pays. » En juillet 2012, M. Oliver a déboursé 5 593 $ pour 2 vols entre Toronto et Calgary afin de participer à des rencontres avec les entreprises des secteurs pétrolier et gazier et des industries des oléoducs et de l'acier. Les vols constituaient la dépense la plus importante pour ce voyage qui s'est chiffré à 7 483 $ en tout. Et alors, on nous fait également état d'autres dépenses, comme par exemple une nuit à 785 $ ou tout ça. Ça a été payé par nous, finalement. Alors, j'ai juste une petite question à poser. Est-ce que ce monsieur va faire de la prison? Un article intéressant dans Le Devoir ce matin, l'homme moderne déjà en Chine il y a 80 000 ans et on en fait ici la preuve par 47 dents. Des dents en bon état qui ont été trouvées dans la grotte de Fouillan. Pascal Mollard, chaîne Benoît de l'agence France Presse à Paris écrit pour Le Devoir, l'homme moderne est arrivé en Chine il y a plus de 80 000 ans, bien avant qu'il ne s'installe en Europe. Selon cette étude qui conduit à avancer la date de sa sortie d'Afrique et à repenser ses chemins migratoires. À l'origine de ce qui pourrait constituer une petite révolution dans le ciel de la paléoanthropologie, 47 dents donc, qui ont permis à des chercheurs d'établir que l'homme moderne, l'Homo sapiens, était déjà présent dans le sud de la Chine il y a au moins 80 000 ans et peut-être même il y a 120 000 ans. Soit bien plus précocement qu'on ne le pensait jusqu'alors, déclare Wu Liu de l'Académie des sciences de Pékin, principal auteur de l'étude publiée mercredi dans la revue britannique Nature. Et il est arrivé en Chine deux fois plus tôt qu'en Europe, ajoute-t-il. Homo sapiens aurait vécu en Chine du Sud 30 000 à 70 000 ans avant qu'il ne colonise l'Europe, selon cette étude. Les premiers fossiles d'Homo sapiens trouvés en Europe datent d'environ 45 000 ans. Le continent était alors peuplé d'hommes de Néandertal. Cette découverte démontre aussi qu'Homo sapiens, apparu en Afrique de l'Est il y a environ 180 000 à 160 000 ans, est sorti de ce continent beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait, considère Maria Martinon Torres d'UCL, University College of London, co-auteur de l'étude. Le scénario généralement accepté fait remonter le départ de l'homme moderne d'Afrique à seulement 50 000 ans, déclare-t-elle à Nature. Les dents en bon état ont été trouvées dans la grotte de Fouyan, près de Daoxian, dans la province chinoise du Hunan. Une fouille menée entre 2011 et 2013 par l'équipe de Wu Liu a permis de trouver dans une couche d'argile sablonneuse ces 47 dents qui ont ensuite été étudiées, bien sûr, par un groupe de chercheurs internationaux. Et quand j'ai vu ces dents au laboratoire, il m'est apparu clairement qu'elles appartenaient à Homo sapiens et qu'elles ressemblaient beaucoup à celles des populations humaines actuelles, déclare Maria Martinon Torres. Mais on nous dit, il y a maintenant beaucoup de précisions historiques sur le sujet, mais j'ai aussi d'autres sujets à voir avec vous dans Le Devoir. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant de lire, je sais pas, j'espère que vous, ça vous intéresse aussi, que vous vous sentez un petit peu anthropologue dans l'âme, comme moi je peux me le sentir. Également dans Le Devoir ce matin, Fabien Desglis se demande si le partenariat transpacifique dont on a parlé et qui s'est conclu récemment ne serait pas néfaste pour la vie privée. Il écrit Desglis, après l'industrie laitière et celle de l'automobile, autour des défenseurs de la vie privée de s'inquiéter de cette ratification par le Canada du partenariat transpacifique, le fameux PTP. Selon eux, cet accord de libre-échange conclu entre les 12 pays bordant le Pacifique il y a une dizaine de jours pourrait en effet, s'il est adopté en l'état par le prochain gouvernement fédéral, porter atteinte à la vie privée des Canadiens et à la protection de leurs informations personnelles. Dans leur ligne de mire, plusieurs dispositions du PTP, dont une qui vise à empêcher les États signataires d'exiger l'utilisation de serveurs informatiques locaux pour le stockage de données, par des entreprises étrangères faisant commerce sur leur territoire. Sur son blog, le spécialiste en droit du numérique, Michael Geist, précise d'ailleurs que cette mesure répond au lobby d'entreprises de la Silicon Valley, autrement dit Twitter, Facebook, Google, Dropbox et consorts, qui, pour accroître leurs profits, préfèrent conserver les données générées par leurs clients étrangers sur leurs serveurs aux États-Unis plutôt qu'avoir à gérer des parcs de serveurs de stockage dans les pays où elles font affaire. Or, une fois délocalisées, ces données personnelles, dit toujours Desglis, peuvent également sortir du cadre légal canadien et entrer dans celui des États-Unis, où les intrusions dans la vie privée par l'entremise du Patriot Act, entre autres, et la surveillance passive des citoyens sont largement facilitées. Au pays, la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse ont adopté des lois forçant une régionalisation du stockage de données numériques sur leur territoire, des mesures qui risquent de ne pas survivre à la ratification du PTP. Des données gouvernementales délicates, y compris celles générées par les services de santé au Canada, pourraient être touchées par cette libre circulation transfrontalière souhaitée par les signataires de ce partenariat.
D'abord la caricature dans l'éditorial ce matin du Devoir. Le port du niqab est un droit pour Justin Trudeau, qu'on voit en train de jouer les couturiers. Alors qu'est-ce qu'il est en train de coudre? Eh bien, il le dit lui-même, ma nouvelle création pour les cérémonies d'assermentation. Il s'agit d'un niqab aux couleurs du drapeau canadien. Et au sujet des eaux usées, que de détours, écrit José Boileau dans son éditorial de ce matin. L'insoutenable désinvolture de nos dirigeants dénonçait Roy Dupuis comme porte-parole de la Fondation Rivière dans un texte sur le déversement d'eau usée à Montréal. Il n'y a guère d'autres mots, tant il devient impossible, en raison de la légèreté des élus en matière environnementale, de savoir à qui se fier dans cette saga. Et la décision d'Ottawa ne fait qu'en rajouter. En effet, hein, vous le savez, maintenant Ottawa a dit non à ce déversement. Monsieur Coderre est en colère sans bon sens. D'ailleurs, c'est un beau lapsus parce que vraiment, ce matin, là, il fulminait littéralement. Alors, elle nous le rappelle, Madame Boileau, que la ministre fédérale de l'Environnement, Léona Aglukkaq, a donc tranché. Ottawa attendra un nouvel avis, celui d'un anonyme expert indépendant, avant de donner ou pas l'autorisation à Montréal de procéder au rejet de 8 milliards de litres d'eau d'égout dans le fleuve. La décision a suscité une vive indignation de la professeure Sarah Dorner de Polytechnique, spécialiste du sujet. Ottawa a en main le dossier depuis un an. Les experts du Saint-Laurent se trouvent à Environnement Canada. On peut se fier à eux. Dans cette affaire, un expert indépendant sera même un expert ignorant, a-t-elle affirmé à RDI, à quoi Martine Châtelain, présidente de la coalition Eau Secours, donc Eau, écrit comme Eau Secours, rétorque que les scientifiques d'Environnement Canada étant maintenant muselés, mieux vaut consulter ailleurs. Se dessinaient là deux interventions, le vrai drame de cette saga. Que ces décisions soient par ailleurs communiquées largement et à l'avance au grand public et que démonstration soit faite qu'aucune solution de rechange n'est possible, que celle-ci soit jugée par des élus informés autrement que par des notes glissées dans l'annexe 5 d'un sommaire décisionnel, ce que décrit Projet Montréal, quand on lui objecte qu'en nous, l'opposition montréalaise avait donné son aval au projet de déversement de l'administration Coderre. Bon, écoutez, au cas Québec, ce n'est pas mieux, dit Madame Boileau. L'analyse qui appuie la décision de Montréal repose sur un maigre 8 pages, une par milliard de litres d'eau usée, déversée. La ville de Montréal, elle, a suivi la petite gestion ordinaire du monde des dérogations, de celle qu'on voit aussi en matière d'urbanisme, lorsqu'il suffit d'évoquer une situation exceptionnelle pour passer outre les règles de zonage ou de hauteur de vue. Alors, se tourner vers les experts, servez-vous, on en trouve pour tous les goûts, dit Madame Boileau, même la nécessité d'agir immédiatement est contestée. Daniel Green, candidat du Parti vert qui s'y connaît, souligne qu'il vaudrait mieux que le déversement ait lieu en février, quand il n'y a pas de migration de canards et d'autres oiseaux migrateurs, pas de chasseurs, de pêche ou de plaisanciers sur le fleuve. D'autres, comme le maire, trépignent qu'on puisse retarder les travaux devenus urgents en raison du caractère vétuste des systèmes de soutènement à remplacer. Alors qui s'y retrouve? Certainement pas le citoyen. Si au moins tout ceci servait d'élan pour enfin redresser la barre dans l'application des lois environnementales. Mais qui le croira? On s'en va à l'international, notamment avec Thibaut Temmermann. Thibaut.
Bonjour Clotilde.
Comment
bonjour
ça va ce matin?
Ça va très bien, d'autant plus que j'ai un nouveau livre qui m'attend, que j'ai mis en suspens. Donc là, ce matin, enfin, je peux reprendre la lecture.
Bon, la lecture, et Dieu sait si pour vous c'est important, je précise, et vous l'aurez compris, que Thibaut non seulement collabore bénévolement à cette émission Les Voix de Service, mais depuis déjà quelques années est un lecteur assidu, bénévole aussi, de l'autre côté, du côté de l'enregistrement des livres, et on vous en remercie. Alors, au programme du jour.
Programme du jour, bon, cette fois, je vous promets, on ne parle pas de guerre.
Oh, ça aurait pu, malheureusement.
Ça aurait pu, malheureusement.
Notamment quand on voit ce qui se passe en Palestine, là, c'est pas joli.
Oui, mais... tout à fait. On en parlait d'ailleurs la semaine dernière. Mm-hmm. Hein, effectivement, mm-hmm. les choses s'enveniment. Mais bon, allez, cette semaine, on va parler d'autres choses. On va s'en aller au Katanga.
Ça, au Katanga.
Au Katanga, c'est un nom qui fait se rappeler un petit peu les guerres de décolonisation. En fait, il s'agit de la province la plus méridionale de ce qu'on appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo.
Oui.
Parce que bon, ces derniers temps, on a parlé un petit peu de développement, des objectifs du millénaire. Et l'un des effets finalement du fait que la pauvreté, l'extrême pauvreté recule dans le monde, c'est que on a la possibilité de soigner davantage de personnes. Et ça a un effet, ça pourrait avoir un effet significatif, notamment au Katanga, puisque, dit le titre de l'article de Muriel Lefebvre publié dans Le Vif, à savoir un hebdomadaire belge, qu'au Katanga, donc, près d'un aveugle sur deux pourrait retrouver la vue.
Oh !
Voilà. Et donc, l'article dit que le Katanga, qui est grand comme 16 fois la Belgique, disons un tiers du Québec, possède l'un des sous-sols miniers les plus riches du monde.
Ouais.
Convoité par les plus grandes puissances occidentales et asiatiques, cette région abrite une population extrêmement pauvre qui souffre d'un manque criant d'infrastructures sanitaires. Le Congo est aussi le pays qui affiche le plus important pourcentage d'aveugles au monde. Je précise Congo, hein, l'ancien nom donc de la RDC.
C'est surprenant.
C'est surprenant.
Est-ce qu'on sait pourquoi
Est-ce que c'est génétique?
Oui, c'est ça.
Ce sont surtout des nécessités qui peuvent être traitées. C'est ça qu'indique l'article, c'est qu'on pourrait traiter ces nécessités. D'ailleurs, on voit... pour illustrer l'article de beaux enfants, Immaculé et son frère qui souffrent tous deux de cataracte congénitale.
Ah oui, d'accord.
Et l'article donc se poursuit la journaliste raconte « En parcourant les rues de l'ancienne cité pour mineurs de Kipushi, non loin de Lubumbashi, on ne peut que constater la décrépitude des lustres d'antan. Les bâtisses sont vétustes et les routes asphaltées, ne sont plus qu'un lointain souvenir. » Dans cette région, à la terre rouge et sèche, tout semble endormi, comme pour mieux être recouvert par la poussière. C'est dans une petite maison de Kipushi, au cœur de ce qui ressemble fort à un bidonville, que vivent Kassadi Mulenga, sa femme et ses quatre enfants. Trois étaient pratiquement aveugles de naissance suite à une cataracte congénitale. L'une des causes de cécité les plus courantes en RDC, qui compte près de 25 000 enfants aveugles. Kassadi souffre lui-même de cette maladie. Mais une opération ratée à l'âge de 6 ans a mis fin à ses espoirs de retrouver un jour une bonne vue. Comme de nombreux pères, Kassadi souhaite que ses enfants suivent une scolarité normale.
Mm-hmm.
Pourtant, la cécité de ces derniers hypothéquait gravement ce souhait. Refroidi par l'échec de sa propre opération, Kassadi était, en effet, très sceptique sur le bien fondé d'une intervention pour rendre la vue à ses enfants. Au Katanga, la mission d'information est aussi importante que les soins. Le handicap est souvent tabou en Afrique et de nombreux malades hésitent à se faire opérer. Certains aveugles ou malvoyants pensent que la cécité est une punition divine ou une sorcellerie contre laquelle rien n'est possible ou encore que se faire soigner est un luxe réservé aux nantis. Et on n'oublie pas les trop nombreux charlatans qui font plus de mal que de bien en donnant une réputation douteuse au personnel soignant. C'est dans ce contexte de méfiance généralisée que les cliniques mobiles jouent un rôle de première ligne en parcourant les villages à la recherche de personnes aveugles ou malvoyantes. En leur fournissant aide et conseils, elles effectuent un travail de prévention et de soins capital. Car souvent les gens ignorent qu'il existe une méthode sûre et efficace à leurs problèmes. Et Kassadi Mulenga, le jeune père de famille, avoue que c'est sa femme qui a réussi à le convaincre de laisser ses enfants se faire opérer.
Ah oui.
Et donc, on fait la rencontre, par exemple, du docteur Richard, qui opère plusieurs fois par an des enfants dans la clinique ophtalmologique Saint-Yvonne. Et ce docteur insiste sur le fait qu'il est primordial de s'attaquer aux problèmes dès le plus jeune âge, puisque jusqu'à leurs 8 ans, les enfants sont encore dans l'âge sensitif, soit l'âge où le cerveau peut réapprendre à voir. Mais il est préférable d'opérer l'enfant avant ses 6 ans pour lui permettre de récupérer un maximum de capacités visuelles. Et au Congo, seuls 4 ophtalmologues sont capables d'effectuer les délicates opérations infantiles. Mmh. Et si pour les enfants, la situation est catastrophique, ce n'est guère mieux pour les adultes. Dans un pays où 1% de la population est aveugle, c'est énorme en effet, il n'y a qu'une centaine d'ophtalmologues. Cette pénurie massive a pour conséquence que près de 600 000 aveugles et 4 millions de malvoyants ne sont pas soignés correctement. C'est d'autant plus regrettable que 80% des cas de cécité pourraient être évités ou guéris sans moyens colossaux.
Puis j'imagine que ces gens-là n'ont pas les moyens de pouvoir sortir du pays pour aller se faire soigner, c'est clair.
C'est tout à fait. Mais il y a des aides durables qui sont apportées. Disais que le pays s'enrichit. C'est un pays dont le sous-sol minier, on le disait en introduction de l'article, est extrêmement riche. D'ailleurs, l'ancien nom du Katanga signifiait cuivre. Regorge de. Et puis au niveau agricole aussi, Katanga est très riche. Donc, mais il y a en plus l'aide des ONG. Et par exemple. Donc l'article se poursuit en disant que nombre d'ophtalmologues diplômés de la République démocratique du Congo n'ont jamais ou presque effectué une opération de la cataracte. C'est pourquoi, au-delà des services offerts et de l'aide ponctuelle de certains médecins, il est primordial de former le personnel pour pérenniser l'aide à travers le temps. Mmh. Et c'est l'une des missions de Lumière pour le Monde, une ONG belge spécialisée dans l'aide aux aveugles en Afrique et l'une des rares présentes au Katanga. L'association ne s'applique pas seulement à former le personnel pour les hôpitaux mobiles, les ophtalmologues ou autres techniciens de la vue qui offrent des lunettes à ceux qui ont juste besoin d'une paire de lunettes adaptées. Elle organise aussi, en collaboration avec des réseaux locaux, l'insertion des enfants malvoyants dans les écoles et aide ceux qui n'arrivent pas à se payer des soins. En effet, malgré le fait que les hôpitaux partenaires de l'ONG pratiquent des prix très démocratiques, 40 € pour un œil, 40 €, donc soit environ 55 dollars canadiens. Donc disons 55 dollars canadiens pour un œil opéré de la cataracte, ce qui représente le coût réel d'une telle opération. Uh-huh. Certains patients n'ont pas les moyens et sont alors financièrement aidés. Uh-huh. Voilà. Devant la réelle misère qui règne au Congo, il s'agit là pourtant que d'une goutte d'eau et d'aucuns pourraient se demander si en agissant ainsi à leur place, on ne dédouane pas les autorités locales de leur carence en matière d'aide à la population. Reste que sur place, on ne peut que constater, devant le sourire et la reconnaissance des patients, l'utilité de ce genre d'initiative. Loin d'être anodin, rendre la vue à tout du miracle. Un miracle qui permet aux aveugles et malvoyants d'envisager leur avenir plus sereinement et de mieux lutter contre la précarité.
Vous nous rappelez dans quoi, dans quel journal vous avez trouvé ça ou
En ligne, l'occurrence, mais c'est Le Vif, qui est l'hebdomadaire qui correspond en Belgique à ce qu'on appelle l'Express en France.
D'accord. Et on continue avec l'ami Thibaut Temmerman qui est venu se joindre à moi ce matin.
Mais oui, et puis on va parler donc d'histoire, vous l'aurez entendu en musique, avec l'article que a eu la gentillesse de me mettre dans la main, à savoir une plongée dans les caricatures d'élections, d'anciennes élections au Canada. Je précise à toute fin utile que je suis, en raison de ma formation de politiste, un peu plus à l'aise avec la période, disons, qui débute par... ce qu'on appelle la révolution tranquille, peut-être un petit peu moins que ce qui précède, mais bon. Donc,
ça va être assez facile parce que comme je connais la chose, allez.
Avis aux vrais professionnels. Plongez. Je m'excuse pour les erreurs ou imprécisions, mais ça devrait aller. J'en ai sélectionné, disons 4-5.
Oui, d'accord.
On commence avec la première, qui est une caricature, qui est d'une caricature des conservateurs canadiens publiée en 1881. Et donc on voit l'oncle Sam qui donne un sachet d'or à un Indien qui pousse vers donc l'oncle Sam une fillette en haillons verts sur laquelle est marqué Canada dans le dos, et en grand on voit The way he would like it, Canada for sale. Mm-hmm. Comment comprendre cette caricature?
D'abord, traduisez-nous ce qui veut dire quoi, alors?
Tout simplement, ce qu'il voudrait que les choses soient, simplement, le Canada à vendre.
Ouais.
Donc, il faut...
Et la jeune fille est noire,
fille est blanche, mais on voit bien Canada,
vendu en esclave.
Voilà, quelqu'un qui ont donc caricaturé en indien. L'Inde était une des colonies de l'Empire britannique à l'époque. Alors, comment comprendre cette caricature? En 1891, c'est alors Sir John A. Macdonald qui est le premier ministre du Canada, qui était le premier premier ministre du Canada par ailleurs, le monsieur qu'on voit sur les billets de 10.
Ouais.
Et donc, il fait campagne contre le traité de libre-échange qui est proposé par les libéraux dirigés par, à l'époque par Wilfrid Laurier. Lui, c'est le monsieur sur les billets de 5 dollars. Et donc, ils vont faire une campagne. Si vous pensez que les publicités négatives sont vraiment déplorables en ce moment, que c'était tellement mieux avant,
c'est rien.
Détrompez-vous. Oui. Il y avait des caricatures vraiment très dures à l'époque pour dénoncer donc le fait que les libéraux voudraient vendre le Canada aux plus offrants et aux États-Unis, alors qu'il y avait encore du côté des conservateurs cette fort attachement envers l'Empire britannique. Chose que l'on retrouve également un petit peu dans une autre caricature qui est un petit peu différente, mais dont l'idée est la même, où on voit toujours Sir John A. Macdonald sur les épaules d'un fermier et d'un ouvrier. Sir A. Macdonald porte en drapeau l'ancien drapeau du Canada, donc avec le l'Union Jack en quartier gauche, c'est comme ça qu'on dit en héraldique, je pense, et où il est marqué en bas de la caricature « The old flag, the old policy, the old leader ». C'est-à-dire, voilà, on se choisit vraiment quelqu'un en qui on peut avoir confiance.
Confiance.
Voilà. Je vais quand même parler un petit peu des résultats. Qu'est-ce qui s'est passé? 1891, effectivement, Sir John A. Macdonald remporte les élections fédérales. Il va décéder quelques mois plus tard. Il sera remplacé par pas moins de 4 premiers ministres conservateurs. On va avoir du mal à trouver un héritier à Sir John A. Macdonald. Et aux élections de 1896, c'est Wilfrid Laurier qui va prendre sa revanche en insistant bien pour dire « Je ne suis pas seulement un francophone ». Et il s'est entouré d'anciens premiers ministres anglophones, provinciaux, pour l'appuyer dans sa campagne. Ça va avoir un effet relativement efficace, parce qu'il va effectivement être élu, principalement avec les votes du Québec.
Ah, voilà. Tiens donc. Mais... Alors, il nous reste 2 minutes. Avez-vous le temps peut-être pour une autre affiche caricaturale, parce qu'il s'agit bien de ça, élection fédérale dans les années...
Alors, 1917.
Parfait.
On est en pleine Première Guerre mondiale, évidemment, et le débat, je pense qu'on est encore plus au courant ici, le débat, c'est celui de la conscription, pardon.
Oui.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Robert Borden, qui est le ministre conservateur, premier ministre conservateur depuis 1911, a obtenu une prolongation de son mandat d'un an par Wilfrid Laurier. Et il propose donc en cette année 1917, mandat prorogé, il propose à Wilfrid Laurier un gouvernement d'union, ce qu'on appellerait en France l'union sacrée, pour finalement affronter la guerre. En échange, je souhaite avoir le soutien du Québec, des francophones, dans la conscription. Laurier refuse en disant « Vous ne pouvez pas me demander ça, ça va être l'émeute. Il y a déjà eu des émeutes, ça va être l'émeute. » On va caricaturer Wilfrid Laurier comme vendu aux Allemands et on voit par exemple une caricature assez détestable où on voit le Kaiser allemand « One who is pleased, the Kaiser. Oh, der Laurier policy. If he wins, there will be no more Canadians to worry me. What union ?» Government. Et c'est effectivement un gouvernement d'union formé par les conservateurs de Borden et les libéraux anglophones du Canada qui va mener le pouvoir à partir de 1917.
Eh bien, dites donc, à quelques jours élections de ces élections,
certaines femmes pourront voter pour la première fois.
Ah oui, c'est en 1900.
Femmes, sœurs et mères de soldats seront autorisées à voter lors de ces élections. Il faudra attendre 1921 pour qu'elles puissent voter.
Eh bien, merci beaucoup. À quelques jours de ces élections, je disais comme quoi, il me reste plus que 10 secondes, ça a joué dur dans toutes les années, à toutes les époques. Merci Thibault Timmerman.
Merci
à la semaine prochaine.
Kevin Breton en relève de Clotilde Say pour les quelques prochaines minutes, le temps de faire le tour de l'actualité sportive aujourd'hui, en ce jeudi 14 octobre, je crois bien. Je ne sais pas si Rémi peut me confirmer qu'on est le 14 aujourd'hui.
Nous sommes le jeudi 15 octobre, Kevin.
Le jeudi 15 octobre et on s'en va au sport immédiatement. Je me suis dépêché à partir hier soir après le travail pour ne rien manquer de ce match ultime entre les Blue Jays et les Rangers du Texas qui commençait à 16h, heure de l'Est. Hein. J'imagine qu'il y a beaucoup de partisans des Leafs qui ont quitté le... des Blue Jays qui ont quitté le travail tôt hier pour se rendre au stade à encourager leur équipe. Et ils n'ont pas été déçus puisqu'ils ont remporté ce qui était un match de fou. José Bautista a couronné une septième manche fertile en émotions et en rebondissements de toutes sortes en claquant un circuit de 3 points. Et Toronto ont défait les Rangers du Texas par la marque de 6-3. Ce faisant, les Blue Jays se sont qualifiés pour la série de championnats de la Ligue américaine pour la première fois depuis 1993, année où ils avaient remporté la Série mondiale. Vendredi, ils affronteront les Royals à Kansas City. Ces derniers ont éliminé les Astros de Houston en 5 parties. Les Blue Jays ont réalisé l'exploit après avoir perdu les 2 premières rencontres de cette série 3-5 devant leurs partisans. Ils ont également effacé des déficits de 0-2 et de 2-3 lors du match ultime. Nous pensions que nous formions une trop bonne équipe pour subir l'élimination dès le premier tour, a déclaré le gérant John Gibbons. Le circuit de Bautista a été enregistré après 2 retraits aux dépens du releveur Sam Dyson, brisant l'égalité de 3-3. Après avoir fait contact avec la balle, Bautista est demeuré quelques secondes dans le rectangle des frappeurs pour admirer son coup de canon, avant de faire virevolter son bâton dans les airs. Une scène qui va rester marquée à tout jamais, j'ai bien l'impression, dans la mémoire des fans de baseball à travers le Canada. En toute honnêteté, je me souviens pas vraiment ce qui m'a traversé l'esprit après avoir fait le contact, a déclaré Bautista en faisant allusion au geste avec son bâton. Je n'avais rien planifié, je savais que j'avais réalisé quelque chose d'important pour l'équipe après le contact. La claque du voltigeur de droite a été rendue possible par 3 erreurs des Rangers, dont 2 commises par l'arrêt-court Elvis Andrus, qui ont permis aux 3 premiers frappeurs des Blue Jays d'atteindre les sentiers. Josh Donaldson a créé l'égalité avec un faible ballon tout juste hors de portée du 2e but Runied Odor, qui s'est transformé en jeu forcé au 2e coussin avant que Bautista ne sème la frénésie dans le centre Rogers. Par ailleurs, le coup d'éclat de Bautista aura permis aux partisans des Blue Jays d'oublier un jeu fort controversé survenu en première moitié de 7e manche et qui avait donné aux Rangers une avance de 3-2. Avec 2 retraits et Odor posté au 3e but, le receveur Russell Martin, un Québécois, a voulu retourner la balle au lanceur Aaron Sanchez, mais celle-ci a frappé le bâton du frappeur Chin Chu Chu avant de rouler vers le 3e coussin. Odor en a profité pour croiser la plaque, mais l'arbitre du marbre, Dale Scott, a sommé Odor de retourner au 3e coussin avant de renverser sa décision après avoir consulté ses 5 collègues. La décision de Scott a semé l'ire parmi les 49 742 spectateurs qui ont lancé de nombreux objets sur le terrain et le mécontentement de Gibbons qui a déposé un protêt. Ce groupe d'officiels a réalisé un travail remarquable, a loué Gibbons après la rencontre. Ce genre de jeu n'est jamais facile, mais c'est un jeu complètement fou, je n'avais jamais rien vu de tel. Les choses ont bien tourné. Scott a par la suite admis qu'il a erré en appelant un temps d'arrêt. La décision finale était la bonne. Même si je n'avais pas appelé un temps d'arrêt, il, en faisant référence à Odor, était en course et nous avons accordé le point, a-t-il plus tard expliqué. J'avais oublié de préciser que c'était un texte de la presse canadienne, mais on sort maintenant au Journal de Montréal d'aujourd'hui un texte de Pierre Durocher qui relate un peu la journée complètement folle qu'a vécu Russell Martin. Le titre « Bautista, ma sortie d'embarras ». Dans un vestiaire où le champagne coulait à flot, Russell Martin cherchait ses mots pour décrire ce qu'il venait de vivre. « Ce match fera assurément partie des classiques », a-t-il lancé. « Comment peut-on ne pas aimer le baseball? Il y a eu tellement d'action au cours de cette rencontre. C'était intense du début à la fin. » Martin se sentait mal dans sa peau après avoir atteint le frappeur en voulant retourner la balle vers Aaron Sanchez, je viens de le raconter. « Une telle chose ne m'était jamais arrivée par le passé », a-t-il commenté. « Je voulais retourner la balle au lanceur, comme je l'ai fait des millions de fois. Chin Chu Chu n'a rien fait d'illégal. Il n'y avait pas d'obstruction de sa part. C'était vraiment bizarre comme jeu et l'arbitre Dale Scott ne savait pas trop comment réagir. » Scott a expliqué qu'il avait commis une erreur en déclarant un arrêt de jeu. « Je me suis mêlé dans l'interprétation de 2 règlements », a-t-il avoué, puis j'ai réalisé que le frappeur n'avait pas bloqué la balle de façon intentionnelle. Chu Chu est demeuré dans le rectangle, la balle était donc en jeu. Martin a avoué qu'il était stressé en retournant dans l'abri des joueurs. « Je souhaitais de tout cœur que mes coéquipiers reviennent à la charge en marquant des points, et c'est ce qu'ils ont su faire. Les gars ne m'ont pas laissé tomber. Le mot « soulagement » n'est pas assez fort pour décrire ce que j'ai ressenti. » Bautista, mon ancien coéquipier au collège en Floride, m'a sorti d'embarras en frappant son coup de circuit de 3 points. Je ne le remercierai jamais assez d'avoir joué les héros. Il a toujours été l'homme des grandes occasions. » Un texte de Michel Marois dans la presse de ce matin qui nous apprend que Eugénie Bouchard a intenté mercredi une action contre l'Association américaine de tennis et le Centre national de tennis à la suite de l'accident survenu dans un vestiaire le 4 septembre dernier d'après son match de double mix aux internationaux des États-Unis. La plainte civile a été déposée à la Cour de district américaine pour le district Est de New York, mercredi, à Manhattan, par l'avocat Bénédicte Morelli, partenaire dans une firme spécialisée dans les litiges opposant des individus à de grandes sociétés. Le montant précis des demandes de Bouchard n'est pas indiqué, mais Maître Morelli a indiqué mercredi qu'il pourrait s'agir d'une affaire de plusieurs millions de dollars. « Il s'agit d'un cas évident de négligence et entraîner des dommages graves pour ma cliente », a-t-il estimé. Mademoiselle Bouchard a été touchée tant sur le plan physique, moral que économique. Alors qu'elle avait retrouvé son élan vers les sommets de son sport, cet accident lui a fait perdre plusieurs mois, voire plus encore, dans la poursuite de sa carrière. L'avocat a précisé avoir demandé que la cause soit entendue, et jugée devant un jury. Si bien entendu, les deux parties ne trouvent pas un terrain d'entente avant le procès. Excusez-moi. D'abord rapporté par le site Yahoo Sports, les détails de la poursuite stipulent que les organisateurs du tournoi ont créé une situation dangereuse dans la salle de physiothérapie du vestiaire des femmes. La chute de Bouchard aurait été causée par une substance glissante, étrangère et dangereuse sur le plancher, dont la présence avait été créée ou causée par les organisateurs et dont ils auraient dû avoir connaissance. La poursuite reproche ainsi aux accusés de ne pas avoir indiqué la présence de la substance sur le plancher et d'avoir fait preuve de négligence en n'assurant pas des conditions sécuritaires dans le vestiaire. Et en terminant au hockey, Anthony Duclair a marqué 3 buts, Max Domi a récolté 2 points, les Coyotes de l'Arizona ont vaincu les Ducks d'Anaheim 4-0 mercredi soir. Duclair, acquis des Rangers de New York et originaire de Pointe-Claire, a d'abord surpris Anton Khudobin d'un tir bas après une mise au jeu en première période avant de revenir à la charge en avantage numérique quelques minutes plus tard, battant le gardien après une mise en scène de Domi, le fils de Ty Domi. Duclair a complété son tour du chapeau lors du deuxième engagement en déjouant Anderson d'un tir des poignets vif à partir du cercle des mises au jeu. Et en ce qui concerne le Canadien, c'est le match d'ouverture au Centre Bell ce soir à 19h30 face aux Rangers. On s'attend à un bel accueil de Max Pacioretty qui va porter le C pour la première fois devant ses partisans.
Ah, ben oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est fait, les travaux, ou ça va être fait?
Non, c'est sur 3 ans que ça va être étalé.
Ah, c'est
puis
ça.
Puis semble-t-il que ça ne devrait pas nuire au déroulement, soit des événements sportifs ou musicaux.
Mais par contre, est-ce que ça veut dire que les hot dogs vont encore coûter plus cher?
Je suis pas mal sûr que la bière et les hot dogs vont coûter plus cher.
Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Clotilde.
Anne-Laure Janson qui est là, toujours fidèle aussi au rendez-vous le jeudi. Anne-Laure qui réalise toujours l'émission que nous adorons.
Audio portrait.
Alors,
oui.
Et qui nous arrive cette semaine avec quoi alors?
Alors, pour Audio Portrait, la semaine prochaine, oui. Mardi à midi, on pourra écouter Lise Veilleux.
Oui.
Qui est quelqu'un qui a perdu la vue à 30 ans, qui a perdu son métier, parce qu'elle ne pouvait plus l'exercer, mais qui s'est découvert une nouvelle passion pour la massothérapie.
Okay.
Et qui depuis exerce comme massothérapeute à Longueuil.
Mmh. Alors, elle vient nous raconter son histoire mardi à midi.
D'accord. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on peut entendre
en
à l'émission
moment,
Audio Portrait?
En ce moment, on écoute Gérald Miller.
Ah oui.
Qui est le directeur du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec.
D'accord.
Très intéressant aussi, qui, lui, à 13 ans, a fait un mélange fumigène et qui lui a malheureusement coûté la vue également. Il préparait quelque chose pour une pièce de théâtre de ses amis. Voilà, et c'est aussi un parcours incroyable de Monsieur Miller qu'on peut entendre en ce moment. Et puis, juste pour vous parler aussi des deux émissions pour lesquelles je travaille également comme recherchiste pour Luc Fortin. Je voulais vous dire que aujourd'hui à midi, nous allons recevoir un directeur de festival, le festival des films Au Contraire, qui parle tous de santé mentale. C'est sur 3 jours, du 27 au 30 octobre.
Mais c'est formidable, ça.
Au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Oui, wow. En effet, c'est vraiment intéressant. C'est la programmation se fait. Il y a beaucoup de courts-métrages. L'après-midi du mardi, il va y avoir des projections gratuites pour les élèves du secondaire.
Okay.
On va pouvoir voir Pressure de Lily Yu, qui est une exploration dans le stress quotidien d'une adolescente. All We Ever Wanted, également, qui est un film hollandais, qui est un documentaire sur le sujet de la dépression et la pression sociale chez les jeunes adultes. Le soir, il y aura le film, le long-métrage Touché par le feu, qui est adapté du livre Touché par le feu, la maladie maniaco-dépressive et le tempérament artistique. Donc, c'est l'histoire de deux poètes maniaco-dépressifs qui, lorsqu'ils ne prennent pas leurs médicaments, partent dans des délires terribles et finissent toujours à l'hôpital psychiatrique. Le jeudi 29, il y aura la série documentale avec Papa Trouble de Cécile Gariepy, qui est l'histoire de Laura, 23 ans, qui depuis quelques années ne reconnaît plus le regard de son père affligé par la maladie mentale. Impuissante, Laura pose un dernier regard sur le parcours de celui qui l'abordait autrefois.
Oui, bien sûr.
Donc, beaucoup d'histoires personnelles, exemplaires sur la maladie mentale. Il y aura aussi des discussions après plusieurs films. Le vendredi 30 à 19h, ça va être Living Museum de Jessica Yu, qui parle en fait d'un documentaire qui a été tourné à la fin des années 2000, à la fin des années 90, en 98 exactement. Le musée vivant, premier modèle de réussite d'un asile où tout est dont l'art est central en fait aux États-Unis.
Oui.
Les patients se développent comme artistes dans un environnement créatif. C'est aussi un long métrage qu'on pourra voir vendredi 30 au Musée des Beaux-Arts. Donc, Monsieur Sievelberg sera là pour nous parler de la programmation à midi et quart avec Luc. Et demain et vendredi dans Ça vaut le détour. Demain, nous allons parler. Dans Accès Libre, pardon, je me mélange les pinceaux.
C'est pas grave.
Vendredi, dans Accès Libre, on va parler du Pass Action, qui est un programme de réinsertion sociale qui est en train de petit à petit changer de nature. Le gouvernement coupe beaucoup et des personnes qui sont dans l'incapacité de travailler se verront coupées de leur programme qui permet d'avoir une activité 20 heures par semaine tout en gagnant, je crois, $130 de plus que leur assurance. Donc, et ils viennent nous en parler dans Accès Libre vendredi.
Comme quoi, cette émission-là, on ne le dira jamais assez, est complètement essentielle.
Oui,
merci beaucoup, Anne-Laure Janson. Merci, bonne journée. Voilà, Anne-Laure Janson qui reviendra jeudi prochain, bien sûr, à l'émission Les Voix de Service, comme elle le fait chaque semaine. Et je ne saurais que trop vous recommander une fois de plus d'écouter les émissions Audio Portrait, ainsi d'ailleurs que les émissions toujours animées par Luc Fortin, Accès Libre et Ça vaut le détour, parce que, comme le titre l'indique, ça vaut vraiment le détour. On s'en va en région. Et c'est tout neuf, hein, depuis hier. J'ai moi aussi, grâce à cette nouvelle application, pu faire rentrer les journaux régionaux sur mes iPads. Alors j'espère que ça va me faciliter la vie, mais peut-être pas non plus. Nous allons découvrir ça ensemble. Dans le droit aujourd'hui, ce que j'ai retenu pour vous, c'est un papier de Patrick Duquette qui s'appelle « L'école de la démocratie ». Qui nous dit « Justin, Justin, Justin ». Et là, voyez-vous, ça commence bien, je l'ai perdu, mais je vais le retrouver parce que ça, c'est vraiment de ma faute. Ces jeunes filles d'Éduquette n'en ont que pour le beau Justin. Dommage pour le chef libéral qu'elle n'ait pas encore l'âge légal de voter. Les étudiantes du collège privé Saint-Joseph de Gatineau ont participé en grand nombre mercredi midi à une simulation de vote dans le cadre des élections fédérales. Elles ont pris l'exercice au sérieux, dit Duquette. Alors avant de faire leur choix, elles ont épluché les programmes des partis, elles ont écouté les débats des chefs, elles ont appris les rudiments de notre système politique et le résultat final est pour le moins étonnant. Ça surprend d'entendre des jeunes filles de 12, 13, 14 ou 15 ans vous parler avec aplomb des enjeux de la classe moyenne, de la guerre en Syrie et de C-51. Mais très peu d'UNICAB, je crois qu'elles s'en fichent d'UNICAB. Elles aiment bien Justin Trudeau. Par contre, elles en apprécient surtout son ton positif, son côté rassembleur, son ouverture à la jeunesse. Et sa belle gueule, même si elles s'en défendent. Alors je sais que vous le trouvez cute, allez les filles, c'est votre prof qui me l'a dit. Même si rien ne les y obligeait, elles sont venues voter en grand nombre sur l'heure du midi, à la queue leu-leu, dans leur petite jupe carottée. L'élection n'était que simulée, mais elles avaient les apparences d'une vraie, avec de vraies boîtes de scrutin d'Élections Canada, des scrutatrices et une liste électorale. Et oui, avant que vous posiez la question, les jeunes filles votaient, à visage découvert. Charlène Grégoire, 15 ans, est la présidente d'école. Pour elle, voter, c'est honorer le combat des femmes qui se sont battues pour obtenir le droit de vote au Québec. J'ai voté libéral pour remettre l'économie sur pied, pour redonner de l'argent à la classe moyenne et pour investir dans les infrastructures afin de relancer l'économie, a-t-elle répondu d'une traite. Quand je vous disais qu'elles ont pris l'exercice au sérieux, dit Duquette, Yasmine Yandouzi, 13 ans, a visionné deux débats des chefs. Oui, j'ai voté libéral, parce que Justin Trudeau a de bonnes idées, il veut redonner aux familles les moins nantis. Victoria Blouin, 16 ans, a aussi voté pour Justin, il représente des valeurs plus modérées, plus canadiennes qu'Harper et Mulcair, dit-elle. « Moi, je trouve que c'est Mulcair qui a le plus d'allure, » dit Catherine Grandmont, du haut de ses 12 ans. « Ah oui, et Trudeau, tu lui reproches quoi ?»« Trudeau, il n'a pas d'allure. Les libéraux veulent continuer à vendre des armes à l'État islamique. » Elle voulait dire « à l'Arabie saoudite. » Mais j'étais si saisie devant sa vertueuse indignation que je n'ai pas songé à la corriger, dit encore Duquette. « Dites-moi les filles, pour qui vous ne voulez absolument pas voter ?» Et là-dessus, réponse unanime, « Elle trouve Stephen Harper trop traditionnel, pas assez pro-environnement, trop axé sur le militaire. » Il a fait son temps. Je pense qu'on devrait imiter les États-Unis après deux mandats. Allez hop, c'est assez, dit Sarah Elisabeth Loyer. C'est Judith Chouinard, une enseignante d'histoire, qui a organisé le vote simulé avec des collègues. Un organisme non partisan, qui s'appelle Civics, a fourni les outils pédagogiques et les boîtes de scrutin. Et autour de 7500 écoles canadiennes participent cette année au programme de vote étudiant. On dit que les jeunes s'intéressent peu à la politique, mais Judith Chouinard a constaté le contraire au Collège Saint-Joseph. Les étudiantes ont fait preuve d'un enthousiasme insoupçonné, dit-elle, parce que ça a discuté de politique jusque dans les chaumières. On voulait vraiment impliquer les parents, au point que bien des parents vont aller voter cette fois-ci, sous la pression de leurs enfants, raconte-t-elle. Ça c'est chouette, hein ? Les caricatures du jour qu'on peut retrouver dans les journaux régionaux, mais aussi dans la presse. Pardon, je la ris déjà. Nous sommes dans un salon, c'est le salon d'une famille. Et il y en a deux qui regardent la télévision. Ce sont des enfants qui regardent des dessins animés. Au pied, il y a un petit chat. Au pied des enfants, il y a un petit chat qui dort avec une petite pelote de de fil à côté de lui. Et il y a deux personnes, deux adultes, ils sont plus grands que les enfants, alors on s'en doute, qui s'en vont. L'un porte un masque d'un bœuf et l'autre porte un masque d'un éléphant. Et ces deux-là disent, bon, bah, soyez sages, hein, les enfants. Et il y en a un petit qui dit à l'autre, ah, j'ai assez hâte d'être grand pour aller voter. Elle est vraiment mignonne. Également, j'ai celle-ci, caricature du jour. Ça, c'est Jean-Isabelle dans le Nouvelliste qui nous présente un espèce de Hulk. Vous savez, Hulk, le monstre vert. Eh bien, le monstre Hulk, il a trois têtes, soit celle de monsieur Mulcair, de monsieur Trudeau et de monsieur Duceppe. Et à côté, on voit monsieur Harper qui a l'air beaucoup plus petit que ce monstre à trois têtes et qui a réellement très très peur. Alors, premier petit souci avec les journaux régionaux, oui, ils sont pas mal faits du tout. Par contre, on est incapable, j'ai beau fouiller partout, on est incapable de pouvoir aller directement sur la page que l'on désire. Alors, c'est pour ça que là, je passe un temps fou à spinner sur mon écran. Mais sauf qu'il y a des fois où les pages ne se tournent pas. C'est pour ça que j'ai été un petit peu longue à revenir vers vous. Dans Le Soleil, aujourd'hui, on nous parle de ces employés des traversiers qui sont invités à se prononcer sur la grève. Sous pression depuis 48 heures, le syndicat des métallos convoquera sous peu ses 150 officiers mécaniciens et de navigation à une nouvelle assemblée générale. Les syndiqués seront invités à se prononcer sur les dernières offres patronales et sur la grève générale illimitée déclenchée mardi. Développement important dans le litige qui paralyse depuis deux jours la traverse Québec-Lévis. Après avoir refusé de le faire, la section locale du 95-99 du syndicat des métallos a annoncé mercredi après-midi qu'elle présentera à ses membres l'offre finale et globale déposée par la STQ, la Société des traversiers du Québec, le 5 octobre. En page d'après, en page 9, on nous dit que Coiteux est évidemment pressé que la grève sur les traversiers finisse. D'ailleurs, il n'y a pas que M. Coiteux qui a hâte. Le gouvernement Couillard n'a pas mis tant à être indisposé par la grève des officiers des traversiers. Le président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux, a appelé mardi le syndicat à revenir à la table de négociation comme les autres et il a prévenu que la patience a ses limites, sans toutefois confirmer qu'il travaillait déjà sur une loi spéciale. Dans la Tribune, mais aussi dans la plupart des journaux régionaux, on relaie aujourd'hui la chronique de Gilbert Lavoie qui s'intitule « Le chemin de croix de PKP ». Il commence en disant « On aurait pu le croire déprimé et en train de panser ses plaies depuis son échec à la direction du Parti québécois, mais non, Jean-François Lisée est de retour à l'écriture. Il s'apprête à lancer un livre le 29 octobre, la veille du 20e anniversaire du référendum de 95. » C'est l'analyse de l'échec de 95 et les recommandations pour la prochaine fois qui piquent la curiosité, s'il y a une prochaine fois. Or, si Pierre-Carl Péladeau, dont on ne retrouve le nom qu'une fois dans ce livre, veut s'en inspirer, un véritable chemin de croix l'attend, dit Gilbert Lavoie. Les obstacles à franchir sont complexes et nombreux. Lisée a déjà dit de PKP qu'il était une bombe à retardement. Il ne se prononce pas sur sa capacité de relever un tel défi. Il passe aussi sous silence le fait que le PQ devra d'abord gagner les élections, on le comprend, compte tenu de son manque d'enthousiasme pour Péladeau pendant la course à la direction. Voilà donc ce qui attendrait un gouvernement Péladeau au prochain référendum, selon Lisée. L'exemple écossais. Le Québec devrait en venir à une entente préalable avec Ottawa sur la mécanique référendaire et les résultats exigés. En cas d'échec, Lisée propose une médiation internationale menée par un ancien secrétaire d'État américain et un ancien ministre français des Affaires étrangères ou encore un négociateur écossais et un britannique. Les dépenses, pour forcer le gouvernement fédéral à respecter le plafond de dépenses des camps du oui et du non, il suggère une entente préalable avec Ottawa, à défaut de quoi le Québec modifierait sa loi sur la consultation populaire. Le vote ethnique, pour empêcher le gouvernement fédéral d'accélérer l'accession à la citoyenneté de milliers d'immigrants, Lisée suggère d'amender la loi québécoise et de n'accorder le droit de vote qu'aux personnes qui ont acquis la citoyenneté depuis au moins 12 mois. La ratification, si Ottawa et les autres provinces n'acceptent pas de ratifier la sécession après une entente négociée, l'auteur suggère le recours à la déclaration unilatérale d'indépendance. Sur la question autochtone, c'est le principal obstacle à une transition négociée vers la souveraineté et le plus beau prétexte d'un gouvernement canadien qui voudrait faire dérailler le processus, d'après toujours M. Lisée. Jamais à court d'imagination, il suggère une formule hybride. Le Québec et le Canada continueraient d'exercer les mêmes droits envers les autochtones québécois. Ottawa, dit-il, pourrait même maintenir des bureaux de poste à Kanawake. Alors, le livre mérite-t-il la lecture? Il n'y a pas de presse, nous dit Gilbert Lavoie. Si vous avez du temps, il sera mieux utilisé à la lecture des programmes des partis politiques fédéraux. Alors, vous écoutez Clotilde Say, c'est l'émission qui se poursuit pour encore une quinzaine de minutes avant que Christiane Campagna ne vienne animer le bulletin du handicap. Je vous retrouve dans quelques secondes avec des nouvelles internationales. Et on s'en va à l'international. La stratégie du chaos, c'est le titre de la chronique d'Agnès Gruda ce matin dans la presse qui écrit « De quelles options dispose un parti politique ayant dirigé sans partage pendant plus d'une décennie à l'issue d'élections où la majorité des sièges lui échappe ?» Telle est la question. Eh bien, il peut toujours déclencher de nouvelles élections dans l'espoir d'aboutir à de meilleurs résultats et profiter de la campagne électorale pour agiter quelques vieux démons comme la haine ethnique et la peur. Vous avez compris que ce qui précède n'a rien à voir avec la campagne électorale en cours au Canada. Le pays dont il est question ici, c'est la Turquie, qui a été frappée la fin de semaine dernière par la pire attaque terroriste de son histoire. Avec une centaine de morts, le double attentat a causé un véritable carnage en plein cœur d'Ankara. Il a aussi fait surgir le spectre d'une guerre civile à 2 semaines d'un scrutin où le Parti de la Justice et du Développement, l'AKP, en poste depuis 13 ans, joue sa survie. Au moment où j'écris ces lignes, écrit Agnès Gruda, tout indique que les deux kamikazes qui ont semé la terreur dans la capitale étaient liés au groupe État islamique. Ce n'est pas l'AKP qui a appuyé sur le détonateur, conviennent les analystes, mais l'absence de policiers sur le lieu du vaste rassemblement pacifiste où les terroristes se sont fait exploser samedi révèle une troublante faille de sécurité, dit-elle. L'AKP n'a pas orchestré ces attentats, mais il a permis qu'ils aient lieu, dit le politologue Umut Oksirimli, opinion que partage une majorité de Turcs. Tout le monde croit que ce problème de sécurité, c'était plus que de l'incompétence. Arrivé au pouvoir en 2002 sous l'étiquette islamiste modéré, le gouvernement de l'AKP a commencé son règne par des réformes bienvenues. Il a aboli la peine de mort, il a rétabli le dialogue avec la minorité kurde, tout ça dans l'espoir de se joindre à l'Union européenne. Le rêve européen ne s'est pas réalisé, et avec le temps, l'AKP est devenu de plus en plus islamiste et de moins en moins modéré. Il n'a pas non plus tenu sa promesse de probité. Il a été entaché par un méga scandale de corruption impliquant la famille de l'actuel président et ex-premier ministre Recep Tayyip Erdogan. Il y a 2 ans, L'insatisfaction populaire a culminé en un mouvement de protestation durement réprimé, dit encore Agnès Gruda, ce qui a conduit à une chute de popularité qui a fait passer l'AKP sous le seuil de la majorité parlementaire aux législatives du 7 juin dernier. Et c'est un parti représentant la minorité kurde, le HDP, qui a profité de ce déclin. Plusieurs observateurs craignent aujourd'hui que la Turquie ne fonce carrément vers une guerre civile. Les Turcs ont peur de prendre le métro, craignent les centres commerciaux. Le pays a rarement été aussi divisé. Les divisions s'exacerbent autour de toutes les lignes de faille possibles entre laïcs et religieux. Turcs et Kurdes, sunnites et alévis, qui équivalent à des alaouites syriens, pour les puristes qui s'y retrouvent dans tout cela. D'un côté, un pays divisé comme il l'a rarement été, de l'autre, un gouvernement qui, selon Cengiz Aktar, a concentré le pouvoir entre ses mains et est prêt à tout pour le garder et éviter de rendre des comptes. C'est une recette parfaite pour une catastrophe. Depuis 2 ans, la Turquie fonce vers un mur sur fond d'espoir déçu et de croissance économique dégonflée, sans oublier la guerre civile qui déchire la Syrie voisine et qui contribue à radicaliser une frange de sa propre population. Elle conclut en disant, Agnès Gruda, ce matin, paradoxalement, à 2 semaines du prochain scrutin, la stratégie de l'AKP ne semble pas porter ses fruits. Les sondages indiquent plutôt que son taux de popularité a fléchi de quelques points. Le scénario d'un gouvernement majoritaire devient de plus en plus improbable et ce qui attend le pays au lendemain du 1er novembre est imprévisible. Quelques nouvelles en bref, telles que relatées dans la presse de ce matin. Écrasement du vol MH17, vous le savez, hier je vous en parlais, maintenant c'est sûr, c'est connu, c'est su, c'est vérifié, c'est bel et bien un missile russe qui a abattu le vol MH17, c'est suite à l'enquête menée par les Pays-Bas. Qui entend poursuivre ses propres investigations, qu'on a appris cette nouvelle-là. Les investigations qui vont être poursuivies, c'est plutôt par la Russie, c'est ce que j'aurais dû vous dire, parce qu'évidemment, les Russes sont en désaccord absolument catégorique avec ces conclusions de l'enquête internationale sur l'écrasement du vol MH17, et ils entendent poursuivre leurs propres investigations. C'est du moins ce qu'a déclaré hier l'Agence fédérale russe de l'aviation. Les Pays-Bas ont publié mardi les conclusions de leur enquête menée avec plusieurs pays, dont la Russie, sur l'écrasement le 17 juillet 2014 dans l'est de l'Ukraine de ce vol MH17 de Malaysia Airlines qui a fait, on vous le rappelle, 298 morts, dont une majorité de Néerlandais. Le rapport qui ne désigne pas de coupable établit que l'avion a été abattu par un missile de fabrication russe BUK. Frappe en Syrie, les Russes et les Américains se rapprochent d'un accord, les militaires russes et américains se rapprochent d'un accord pour éviter des collisions aériennes au-dessus de la Syrie, a annoncé hier le ministère russe de la Défense au terme d'une 3e séance de négociations. Cette cohabitation dans le ciel syrien, dans un contexte de tensions internationales, inédit depuis la guerre froide, a suscité la crainte d'événements aux conséquences imprévisibles. Et puis également un livre écrit par Adolf Hitler, oui, Mein Kampf bien sûr, c'est de lui dont il s'agit. Eh bien, il va y avoir une nouvelle version de Mein Kampf en français. Interdit dans certains pays depuis plus de 70 ans, le livre Mein Kampf d'Adolf Hitler sera bientôt réédité en France. Rédigé entre 1924 et 1925, alors que le chef du parti nazi purgeait une peine de prison en Bavière après l'échec de son putsch, Mon combat, son titre en français, va tomber dans le domaine public le 1er janvier prochain. Et puis enfin, à Jérusalem, des postes de contrôle ont été installés pour endiguer la vague de violence. Israël a commencé hier à installer ses postes de contrôle autour de Jérusalem-Est parmi une série de mesures destinées à stopper une vague d'attentats qui a franchi un nouveau palier et dont la plupart des auteurs sont issus de cette partie palestinienne de la ville. La mort mardi de 3 personnes dans deux attentats anti-israéliens et une nouvelle tentative d'attaque au couteau qui a eu lieu hier contre un agent de sécurité israélien ont réveillé le souvenir des attentats meurtriers de la deuxième intifada, avivant une peur déjà largement répandue. Devant cette flambée que rien ne semble arrêter, Israël a annoncé de nouvelles dispositions. Les règles de port d'armes vont être assouplies et les corps des auteurs d'attentats ne seront plus restitués à leurs familles. Le gouvernement a aussi autorisé la police à boucler ou à encercler les secteurs de friction ou de haine à Jérusalem en fonction de la situation. Dès hier matin, des policiers en armes contrôlaient une à une les voitures sortant de Jabel Moukaber, le quartier de Jérusalem-Est, d'où venaient les deux hommes qui ont semé la terreur dans un bus mardi, et celui qui a précipité sa voiture sur un arrêt de bus. Si vous le voulez bien, pour terminer l'émission, on va aller voir un petit peu ce que nous révèle l'actualité culturelle. L'artiste de l'année 2016, figurez-vous, selon le Music Hall America, pourrait bien être Yannick Nézet-Séguin. Oui, le chef d'orchestre dont on peut être très très fier ici au Québec. Louis-Samuel Perron d'ailleurs nous rappelle pourquoi on peut être fier de lui. Il triomphe année après année à Philadelphie, Rotterdam et Montréal. Il a séduit les New-Yorkais le mois dernier en ouvrant la saison du prestigieux Metropolitan Opera, à telle enseigne qu'il est pressenti pour diriger la mythique institution. Les récents succès de Yannick Nézet-Séguin ne sont pas passés inaperçus. Le prodige québécois sera nommé aujourd'hui artiste de l'année 2016 par le vénérable magazine Music Hall America, la Bible du secteur de la musique classique. C'est l'orchestre de Philadelphie qu'il dirige depuis septembre 2012 qui a annoncé hier la remise de ce prix prestigieux à celui qu'il décrit comme un musicien d'une ampleur et d'une profondeur extraordinaire. Choisi par un jury composé de gens du milieu de la musique classique, Yannick Nézet-Séguin recevra son prix le 8 décembre prochain lors d'une cérémonie à Carnegie Hall à New York. Wow! Gilles Vigneault sera l'objet d'un coffret DVD réunissant des films de l'ONF. L'Office national du film, l'ONF donc, et le producteur Paul Dupont-Hébert travailleront de pair dans la conception de coffrets numériques et DVD réunissant des films de l'ONF sous diverses thématiques, a appris la presse. Mieux encore, ces coffrets, dont les premiers éléments sortiront en janvier prochain, seront enrichis d'une présentation et de commentaires inédits faits par une personne étroitement associée aux thématiques exploitées. Ce sera par exemple le cas avec un coffret consacré à Gilles Vigneault, nous explique Claude Jolicoeur, commissaire du gouvernement de la cinématographie et président de l'ONF. Nous avons dans notre collection des films sur et avec Gilles Vigneault. Dans un témoignage qui sera filmé et enregistré, M. Vigneault présentera cette collection et racontera de son point de vue l'histoire derrière ces films, expose M. Jolicoeur qui dit encore « Nous allons donc mettre en contexte plusieurs de nos grands classiques du cinéma. Le fait de les mettre ainsi au goût du jour leur apportera une grande valeur ajoutée. » Et puis, récidive, la plus belle plume de Michel Latraverse. L'idée de ces récidives, dit Alain Brunet, nouvelle série de concerts intimes signée Plume, Michel Latraverse, repose sur les chansons dites à texte d'un artiste encore confiné à tort au domaine de la fête, du délire absurde, des vapeurs éthyliques et des fumées vertes. Quiconque a étudié son Plume sait fort bien que l'œuvre déborde largement le cadre des libations. En voici l'étonnante et l'éloquente démonstration devant public. sans flafla. Gratte en bandoulière, le grand efflanqué est monté hier sur la scène de la 5e salle de la Place des Arts, accompagné de Jean-Claude Marsan aux guitares et de Grégoire Morancy à la contrebasse. Le récital fut précédé d'une dédicace au regretté Luc Faneuf, soit l'impresario du principal intéressé qui a combattu le trac à ses côtés. Après les souvenances d'autrefois, après la tendresse de « Depuis qu'elle marche à pied » et « d'Élégie », portée disparue, nous étions immergés dans le lac multicolore un peu plus gai que les précédentes et qui nous menait à un blues menuisier, les blues de la peinte. De la plainte, le plume caricaturiste de nos exigences avait au fait de ressurgir sur fond de bluegrass. Alors là, il y a eu le Ramoneur, il y a eu la chanson de Jean-Claude, il y a eu le tango Pital, la valse des champignons et d'autres, dont certainement tiens Marie-Lou, dont on va entendre un petit extrait tout de suite.
Assis près de la fenêtre, donnant sur la cour, je suis seul et c'est la fête de mon premier jour. Aujourd'hui, j'ai l'habitude, après tant d'années, car pour moi la solitude, c'est vivre au passé. J'ai mémoire d'une tante qui venait chez nous m'offrir des sucres de menthe avec Marie-Lou. Marie-Lou, c'est la cousine que je préférais. C'était mon cadeau intime, rubané de soie. Il y avait l'oncle Diogène qui faisait de nœuds autour d'un mouchoir de Seine en clignant des yeux. J'avais le geste rapide, mais mon oncle aussi questionnait d'un œil avide, qu'est-ce qu'on dit merci. Alors je croquais mes membres en comptant mes sous, pendant que l'oncle et la tante cherchaient Marie-Lou. Marie-Lou, c'est la cousine que je préférais. C'était mon cadeau intime, rubané de soie, deux fois. Marie-Lou.
Ah, l'ami Plume, hein? Michel Letraverse, qui est donc en tournée. Là, on l'a vu à Montréal, mais ensuite, il va partir vu et entendu à Montréal. Il va partir en tournée, comme ça, en trio acoustique. Bon, il paraît qu'il y a quand même une petite guitare électrique sur scène, mais quand même, tout ça reste relativement débranché. Juste avant de céder la place à Christiane Campagna, une dernière nouvelle que personnellement, je trouve triste, mais parce que c'est un sujet qui m'intéresse, mais il y en a beaucoup qui s'en fichent un peu, mais quand même, pour ceux que ça intéresse, sachez que l'Opéra Lyra d'Ottawa met fin à ses activités. Il n'y aura plus d'opéra présenté à Ottawa. La plus importante maison d'opéra d'Ottawa vient de baisser son rideau de scène pour la dernière fois. Dans un communiqué publié hier par son conseil d'administration, l'Opéra Lyra a annoncé la fin immédiate de ses activités. Le président du CA a dit le défi auquel nous faisons face est que nos revenus ne sont pas suffisants pour couvrir nos coûts. Les quatre prochaines productions de la saison, dont les opéras Fidelio de Beethoven, l'Isola d'Isabitata, l'île déserte de Haydn, programmée le printemps prochain, ont été annulées. Et demain, ce sont 9 employés de la compagnie, dont son directeur général John Peter Jeffries, qui perdront leur emploi. Voilà, merci beaucoup à Rémi de m'avoir accompagné en régie. Merci à vous d'avoir été là. Si vous étiez là, et je suis convaincue que vous l'étiez, n'oubliez pas de parler de nous à quiconque est autour de vous. Et puis, je cède la place et je redis un beau bonjour à Christiane Campagna qui va vous présenter le bulletin du handicap. Bonne journée tout le monde. Je vous retrouve demain à 9h. Bye.
Bonjour, ici Pascal Maupetit. Comme tout le monde, j'écoute Canal M, la radio de Vues et Voix.